parti privilégié, car moi aussi je vous hais.
Je vous hais, je vous hais.
D'ailleurs tout le monde je ne prise plus personne, je peux encadrer. Au moins je ne fais pas de racisme, vous êtes tous dans le même panier.
Je vous hais, je vous hais.
Je sais mes rimes sont très riches, mais de quoi vous vous mêlez. Si vous êtes les plus forts fiches, il fallait les composer.
Je vous hais, je vous hais.
Sur les flics, je m'énerverai pour rien. J'ai une très bonne tactique, je l'ai fait mordre par mes chiens.
Je l'ai, je l'ai.
Une belle photo.
Jean-Luc Rossou.
Et surtout Roger Fringant.
Sans oublier
les petits avec Tom.
Et surtout Grovitch.
Tom, vous en aviez besoin tout à l'heure. Là, vous étiez plus
poli. Maintenant qu'il m'a mis bonjour maman, c'est bon.
C'est ce qu'on appelle un technicien Kleenex.
Non, puis la manière dont vous considérez Grovitch, il est même pas capable d'allumer un ordinateur, si j'ai bien compris. La manière dont vous le voyez, non,
c'est... Vous rigolez. Grovitch était le seul à m'attendre à la sortie de la maison. Un quartier mal éclairé, des bistrots glauques en face chez moi, juste ploum ploum. Qui c'est qui m'attend? Qui c'est qui me dit où est la voiture qui nous emmène? C'est Grovitch. Alors que vous partiez, vous devisiez avec l'atome.
Ah bah nous, on aime bien arriver à l'heure. Nous, on est carré. La révolution, c'est la 20h. Elle est pas 20h10 une fois que tout est terminé. En disant, j'y étais en plus après, quoi.
On n'abandonne pas quelqu'un derrière.
Voilà, merci.
Sauf s'il est en train de mettre ses chaussures pendant 3/4 d'heure parce que je sais pas quoi.
Non, mais je sens que l'assistance spéciale nouveau PC va fonctionner. Vous êtes pas loin en plus de chez Roger. Vous allez vite comprendre la différence.
Ça me dérange pas.
Bah c'est toi.
Vous savez mon bon Grovitch qu'il y a bientôt dans ce cas-là. J'espère que vous en serez.
J'en serai comme dernière, pas comme Tom. Tu crois qu'il y a encore une excuse de cuisine ou je sais pas quoi.
Un repas
pas.
Chez les beaux-parents, ouais, je crois. Vous êtes pas là vous le 14, le 21.
Le 21 non, parce que ma femme est à Paris.
Et alors?
Bah,
vous mettez vos gosses à la nage et vous venez voir dans ce cas-là le festival de ska annuel Rennais. Bref, une émission
de
bourrée,
rentrée,
une émission bourrée, bourrée de rentrée, une émission de bonne année.
Et moi, c'est bonne santé en fait. Bonne année, on s'en fout. Parce
on s'en fout.
L'année 2012, si c'est Sarko qui est élu, ce sera pas bon. Si c'est François Hollande, ce sera pas forcément bon non plus quoi. Donc ce qu'on vous souhaite, c'est bonne santé, tout simplement.
Plus, c'est plus ça.
Tant que vous êtes remboursé, profitez que les mutuelles sont encore abordables.
Alors si c'est Sarko qui est élu, je peux vous dire, ça va pas durer.
Non, mais bon, c'est comme ça. Oh, un petit liste de votre programmation.
Ça... Ah, non, la programmation des pissous, qui vient à point, à qui c'est à temps.
Ouais, je vais remettre un Bikini Machine.
Ah.
Good morning.
Encore?
Encore, ouais, mais ça faisait longtemps.
Ouais, mais c'est vrai que c'est un bon morceau, ça.
Plastic on my hand, you think you know what you do for having a cup or two. Day I tried to leave my coma, but still I got a trauma. My coffee was too hot, and I spilled it on my knee. That was ringing at the door when I was on the second floor. The busman left a note, he don't let me where he got. Every bus came to my hand to tell me what I did wrong. I was picking up the phone for having a dad with you. First you said,
yeah,
then you said,
uh-huh,
don't call me like you do.
Yeah,
then you said, uh-huh, don't call me like you do, cause I have another you. So I tried to take a cab while the workers were on strike. I was puffing on my bike cause my car didn't start. Standing batting at your entrance, you almost get a glance. I was sweating more and more when you open up the door. First you say,
yeah,
then you say,
uh-huh,
don't stick me like you do, cause I have another you. Then you say,
yeah,
yeah, you say,
uh-huh,
now ask me too, cause I have it all on you. Oh, you know that you're too physical for me.
Yeah, 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 yeah.
But your life is not that essential for me. Then I can grow.
my feelings were so fussy, like my fire was too much lazy. Good morning, Mr. Crazy, starting over easily. Just when I got a sitting on the sofa, while the thoughts are in my head, just thinking of what you do for having a cup or two. Realize that I've been dreaming of my future and its meaning. You call me on the phone, pick it up to me, and I say,
yeah,
then I say, don't you feel like you do, cause I'm in love with you. Then I say,
yeah,
then I say, don't you feel like you do, cause I'm in love with you.
Ow!
Cause I'm then I say, don't treat me like you do, cause I have another view. And I say,
yeah,
then I say, don't treat me like you do, cause I have another view. And I say,
yeah,
then I say, don't treat me like you do, cause I have another view. And I say,
yeah,
then I say, don't treat me like you do, cause I have another view. And I say, then I say, don't treat me like you do, cause I have another view. Should I say, you are saying, don't you know what you do, cause I have enough of you. Should I say, you are saying, don't you know what you do, cause I have enough of you. And I say, don't I say, don't you know what you do, cause I have enough of you.
Voilà, après ce formidable morceau de Bikini Machine, un peu mou.
Bah, tout
quand
à
même.
Fait. Pourquoi il est un peu mou? Parce que c'est une compilation, une programmation qui n'a pas été étudiée, une programmation pour laquelle vous n'avez pas la moyenne, c'est tout.
Ah bah là, c'est clair.
Voilà.
J'avoue.
On va émission bourrée
comme tous les mercredis, qu'on peut réécouter sur internet, il paraît, rediffusé le dimanche. Alors qu'est-ce qui s'est passé il y a 15 jours?
Alors il y a 15 jours, on avait un souci avec
c'est
nos
la faute
amis.
À qui ce coup-ci?
Alors il paraît que ça serait la faute à quelqu'un de Canal B dont on n'a pas voulu me communiquer le nom.
Et bien
qui aurait coupé l'enregistrement, ce qui aurait expliqué pourquoi notre émission avec la charmante aidez-moi monsieur Grovitch.
Charlotte.
Charlotte. Et son invité, comment qu'il s'appelait? Là, par contre, c'était... Voilà que j'ai un trou, mais comme vous, vous êtes...
Maîtresse Gilda.
Du problème de l'illettrisme, il s'est passé quelque chose. Il paraît que c'est un animateur dont le...
Non, mais un animateur, un permanent. Dont le nom ne m'a pas été révélé.
Je vais vous expliquer.
C'est le même...
J'étais pas là, cette émission. C'est pour ça.
Et c'est le même qui paraît qu'a coupé cette putain de lumière rouge à la con, qui est toujours
putain,
pas là, en fait. Hein.
De Dieu.
Ah, il paraît que ça commence par un P.
Après, ça finirait par un O.
Et ça serait en quatre lettres.
Non,
c'est pour ça qu'on n'aurait pas voulu me donner le nom. Bref. On s'excuse encore une fois auprès de Charlotte et de son invité.
Cédric.
Et puis, c'est un peu bali ballot.
Ben, ils reviendront.
Par contre, l'émission que nous enregistrons ce soir, qui est en direct présentement, en compagnie de monsieur Gianni Pérez. Bonsoir.
Bonsoir à tous.
Voilà, une émission qui, je l'espère, ne sera pas chuintée, sinon ça va finir par chier quand même.
Tom, il est là, il n'y a pas de problème.
Il n'y aura pas de souci.
Donc du coup, une émission qui va nous permettre de parler, cinéma, ou plus exactement, cinéma documentaire, c'est bien ça?
Oui, c'est un long métrage, mais effectivement, pas de fiction.
Voilà, qui s'appelle Les Nouveaux Chiens de Garde, si je ne dis pas de bêtises.
Ah non, c'est tout à fait ça, Les Nouveaux Chiens de Garde.
Voilà, un documentaire qui nous parle du rapport de plus en plus étroit entre les médias et les puissances économiques et financières. Comme quoi, oh oui, c'est impressionnant, on en reviendra là-dessus. Mais bref, une émission de laquelle, donc Gianni, vous nous direz pourquoi vous avez été amené à organiser la diffusion d'avant-première de ce film au cinéma Harvard avant les vacances de Noël.
C'est ça, oui, c'était le 17 décembre, samedi à 11h du matin.
Voilà, film qui va sortir en salle à partir du 15 janvier. Au TNB à Rennes.
Je corrige un tout petit peu, c'est en fait dans une salle. Alors, une salle. Plus exactement, c'est le 11 que le film sort en sortie nationale et il sera visible effectivement au TNB. Par contre, ce à quoi vous avez fait référence, le 15, c'est ce dont on va parler tout à l'heure dans le sens où il y a effectivement à l'occasion d'une de ces diffusions du film, la venue en fait d'un des deux co-réalisateurs le 15 janvier justement.
Voilà. Et donc, vous nous présenterez tout ça. Ensuite, on téléphonera à monsieur Yannick Kerguat, qui est le co-réalisateur de ce film.
Voilà, celui qui était présent le 17 décembre, a bien voulu donc nous répondre au téléphone tout à l'heure pour qu'on ait justement des éléments sur le film et puis sur les conditions où il a été réalisé, dans lesquelles il va être montré.
Voilà. Et comme il se trouve qu'au final, et comme toujours chez les Grignoux, nos invités sont des invités de qualité, multicartes, on terminera l'émission en parlant également du réseau Éducation Sans Frontières, dont vous êtes un des animateurs.
Alors, très modestement, parce que je commence dans cette fonction, mais c'est vrai que c'est l'occasion que vous m'avez offerte de parler de cette, non pas association, mais de ce réseau, et puis de signaler quels sont les problèmes justement épineux qui se posent sur ce terrain-là aussi, sur Rennes, et en France en général, mais sur Rennes en particulier.
Voilà. Très bien. Une émission bourrée.
Voilà.
J'ai pas menti.
On s'écoute un petit disque de la programmation à Roger. Donc...
Yes, les alors. Doom Doom Girls pour bien commencer l'année. Un petit groupe, que des filles. Elles sont charmantes.
Bah, c'est bizarre, Girls,
Bah, ça aurait pu s'appeler Doom Doom Girls. Vous savez, moi, un jour, j'ai mangé du fromage à la crème et puis il n'y avait pas tant de crème que ça.
C'est parti.
Maintenant devenu une habitude, les Grignoux ont en chaque début d'émission et chacun leur tour une rubrique personnelle.
C'est ça en fait, tu vois le truc.
C'est ça Philou, t'as tout compris. C'est un petit peu entre le clin d'œil, le coup de gueule du moment, mais aussi le détail de la vie trépidante d'un Grignoux.
C'est ça en fait, tu vois le truc.
Maintenant, le problème va être de savoir qui a l'honneur d'ouvrir le micro aujourd'hui. Et ça, c'est pas facile.
Attendez, attends, tu me laisses parler, mais tu me laisses parler.
Il est en train de me tirer par la violence, oh, et ça me coûterait.
C'est ça en fait, tu vois le truc.
Et oui, c'est ça la rubrique perso.
Allez, ouais, je commence.
Il n'y a pas eu d'émission.
Eh, on est à l'antenne, mais j'ai pas mis la lumière.
Bah ouais, bah.
Oh non, c'est une catastrophe.
Eh, mais on n'a pas de lumière. Donc, c'est la rubrique à Roger.
Bah, bien sûr, merci. Comme d'habitude.
Bah si, on va bien commencer l'année. Ça sera la seule fois, par contre.
De l'année, là.
Vous êtes bon, avec moi, mon Tom. Et ça, c'est incroyable parce que, justement, aujourd'hui, Jean-Loup avait quelque chose à dire. Alors, c'est quand même un peu incroyable que vous me donniez la parole ce soir. Donc,
non, je vais juste dire un petit mot. On va
et pas parler un petit mot, parce que je crois que c'est...
Oh, carrément, même un petit coup de gueule. Vous saviez, normalement, on devait se retrouver la semaine prochaine pour aller interviewer...
c'est vous qui aviez eu l'idée, d'ailleurs.
Voilà, au parc des Espos, les fameux manèges en bois, les vieux manèges. Et apparemment, ça s'est terminé en autre boudin, parce que le temps qu'on décoince d'y aller, c'était fermé. Hein.
Enfin, je sais même pas si ça a ouvert.
Si, ça a ouvert quelques jours, en fait, hein, le temps. Alors là, c'est là que vous allez me rectifier. Alors, j'ai dit, ça coûte ces putains de gitans de manouches à la con. Et là, vous dites, non, ce ne sont pas des gitans de manouches à la con, donc ce ne sont pas ceux qui rempaillent les chaises.
Ce sont des industriels forains.
Ils mangent pas de hérissons.
Des industriels forains portés sur, portés sur une vision assez restrictive de la concurrence, on va dire.
Ouais, puis assez, oui, avec des règles.
Donc j'essaie de parler correct, parce que moi je m'en fous, on est venu avec la voiture à Gianni ce soir. Mais bon, comment, ça serait bien, il a pas tout à fait payé les dernières retraites, ça serait bien que notre invité puisse avoir encore sa voiture jusqu'à l'année prochaine.
Donc ceux-là ne rempaillent pas des chaises, ne volent pas dans les cimetières, et
ils
ne mangent pas de
hérissons. Les géants où vous gerbez tripes et boyaux et qui font glousser les filles.
Donc ce sont pas les artisans non plus, ceux qui sont avec leurs petites caravanes, leurs petites Peugeot, leurs petites autotrompeuses, pas ça.
Ceux-là, ils ont des manèges qui font, je sais pas combien ça fait marcher de Fukushima. C'est, je dirais, la foire du trône, ça doit être 2-3 Fukushima. À Rennes, c'est un peu plus modeste, un demi-Fukushima, je dirais, pour balancer les gens, pour faire glousser les gens à l'envers. Il faut quand même pas mal d'énergie.
Non, mais attendez,
Là où ça devient délirant, donc vous aviez eu, vous, l'idée, judicieuse, effectivement, tiens, pourquoi pas?
Si on y allait?
Pourquoi on ferait pas un sujet sur les vieux manèges? Je croyais que vous aviez encore bu le jour où vous m'aviez proposé ça, et puis non, finalement, c'était une putain de bonne idée, parce que, j'avais longtemps que j'ai un peu décroché du manège, parce que j'aime pas trop avoir la tête à l'envers et en ayant des binocles. Bref, c'était une super putain de bonne idée. Comme vous l'avez dit, avant même qu'on puisse remettre notre cul, eh bien, c'était fermé. C'était fermé parce que les industriels forains de la place du Champ de Marche n'ont pas... Champ de Marche...
C'est pareil, tout ça.
N'ont pas véritablement apprécié la concurrence, comme ils disaient, avec des cris d'effraie, que leur imposait cette exposition de manège ancien.
Ouais, surtout qu'eux, ils ont des frais, hein, quand même. 460 € pour le mois par manège. Waouh, et c'est combien à la place? Ça doit être de 2-3 €.
Vous rigolez, un tour de manège dans un truc qui fait vomir, c'est au moins, allez, 7-8 €, je dirais.
Et alors donc, indignation de la plupart des Rennais, parce que je suivais ça de près sur Rennes ma ville. C'est vrai que la mairie a... Comment il s'appelle,
le maire? A joué petit bras. Monsieur Delaveau a...
Ah, Delaveau, j'ai oublié.
On l'avait oublié. Et il a fait, semblait-il, un peu petit bras, parce que on a assisté quand même à ce qui a ressemblé fort à une manif de paysans en colère, ou à une manif de marins-pêcheurs quand ils pètent tout en ville.
3 camions qui bloquent l'accès, 2-3 palettes qui suggèrent les manèges qui risquent de partir un peu, et ça suffit, ça calme la personne. Et cette personne qui apparemment ne s'est pas exprimée du tout, parce que je pense qu'elle tient plus à ses manèges plutôt qu'à régler des comptes
avec les industriels.
Je ne fâche pas non plus avec les gitans, quand même.
Et comment? Bah ouais, justement, une bonne nouvelle quand même. J'ai vu dans un de ces journaux stables là qu'on reçoit le matin pratiquement de force.
En papier, vous auriez été content.
Par contre, en papier. Comme quoi, il y avait une pétition qui était lancée parce qu'il y a pas mal de gens qui effectivement n'ont pas véritablement apprécié la plaisanterie et ils ont raison. Comme quoi, une pétition, pour demander le retour de cette manifestation-là, à savoir des manèges anciens, sachant que si j'ai bien compris, les industriels forains ont dit
terminé pour l'année. Il y a que nous. C'est tout, si on voit, à part si c'est un cousin.
Et à Pâques, est-ce que je peux faire à Pâques?
Si vous êtes cousin, ouais, ça, ou beau-frère, ou, enfin, si ça reste dans le clan, avec vos règles à vous, il y a aucun problème pour ça. Et c'est vrai que, ouais, c'est industriel. Ah, c'est pour ça qu'ils ont des grosses voitures, en fait. Ils sont,
Mais attendez, ça y est, je sens que vous dérapez.
Attends, j'ai pas dit qu'ils avaient volé.
Gianni est en train de regarder de façon assez nostalgique les clés de sa voiture. C'est con.
J'ai pas dit qu'ils avaient volé, ils ont, ça se trouve, ils les ont achetés, ces voitures.
Non, mais ceux-là, ils les ont achetés, vous inquiétez pas, à 10 € la place pour faire vomir, ils ont de quoi s'acheter une Mercedes.
Et du coup, vu la réaction des Rennais, j'ai appris une chose. Vous savez pourquoi la place du général de Gaulle est aussi minérale, en fait?
Bah ouais, parce que
il
n'y
a pas un arbre, il n'y a rien.
Il n'y a rien.
On pourrait se poser la question.
Eh ben, c'est à cause d'eux.
Eh ben, c'est à cause d'eux. C'est-à-dire que pour un mois dans l'année, eh ben, on fait chier pendant 11 mois. Alors, quand on est agoraphobe, je peux vous dire, c'est pas forcément rigolo. Ouais. Une place qui pourrait être extrêmement conviviale, avec un petit peu de verdure, quoi. Tout ça pour arranger les...
Les industriels.
Les industriels fora. Voilà, on peut dire adieu. C'était notre dernière émission.
En tout cas, c'est sûr qu'on n'aura jamais de place gratuite à la fête foraine.
Et c'est vrai que notre bon maire, au bout d'une semaine, 15 jours, a quand même dit l'année prochaine. Il faudrait qu'on en rediscute. Ah, le temps que tout le monde ait oublié, et puis comme ça, c'est fait. Donc vous dites qu'il y a une pétition en ligne?
Il y a une pétition en ligne.
Grovitch, il va nous trouver les coordonnées de la pétition.
Monsieur
qu'on mettra
Grovitch, s'il vous plaît, si vous pouviez être poli avec mon technicien, ça serait pas plus mal.
Qu'on mettra en ligne éventuellement pour justement aller voir cette putain de manège qu'on n'a pas été.
Yep. Et qu'on pourra faire un sujet l'année prochaine.
Pidis, vous aimez un haut, je vous vois avec
juste un truc pour faire le lien avec, et puis après j'aurai plein de choses à dire, mais le lien, est-ce que vous connaissez le déguisement qui a fait fureur, comment pour Noël, le cadeau de Noël?
Le bonnet de Noël, le déguisement, le cadeau de Noël?
Non, ouais, qui est
pour un... Le Sarkozy?
No.
Sarko.
Le déguisement de maman en maman Noël salope. 12 euros chez Leader Price. Et alors qu'il n'en coûte que 3,99 € pour vous déguiser en Père Noël, il en coûtait 12 euros chez Leader Price pour déguiser maman en Père Noël salope.
Il y a les bas.
Et alors, j'ai un ami qui a découpé ça, un ami tout à fait sain d'esprit, et qui me dit, je trouve ça un petit peu bizarre. Et ça m'avait fait énormément rire. Et j'ai su par la suite que c'était le déguisement qui avait fait un buzz pour Noël, maman et déguisé en Mère Noël.
Ouais, mais, ah, oui.
Notre invité, je crois qu'il a quelque chose à dire.
Oui,
je suis aussi prof, et donc là, un peu de méthode. Il faut d'abord décrire l'image.
Oui, parce qu'elle fait pas ça.
Avant d'asséner que maman est une...
Attendez, vous avez vu la hauteur de la jupe de la Mère Noël?
Non, mais vous êtes
au-dessus
pas...
du genou.
Roger, vous êtes pas clair. On va se cotiser entre nous, hein. On va en parler
c'est
par l'église.
Pour vous déguiser en Mère Noël.
Vous allez voir, ça va aller mieux, ça va aller mieux. Allez, un petit disque programmation à Jean-Loup avec un morceau, assez fraîche et qui a une particularité musicale. Et on va voir si vous avez des oreilles ou
qu'est-ce
pas.
Que vous entendez par fraîche? On a eu musique de salon de thé, maintenant fraîche, c'est quoi?
C'est assez sautillant, mais j'insiste.
Sautillant. Alors dites sautillant.
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 Par contre, ce morceau-là a une particularité. On va voir si il vous reste des oreilles. C'est parti. Si vous l'avez trouvé, je vous offre quelque chose.
Un déguisement de Père Noël.
Se qualcuno è in ritardo puoi chiamarlo bastardo, ma intanto è già andato. E fino adesso niente l'ha mai fermato. E tutto più forse lo hai misurato con i tuoi orologi di ogni marca e modello. Ma intanto il tempo resta sempre lui quello. L'unica cosa che c'è data di fare è avere il tempo per poter organizzare. Se da organizzare da dividere in bassi, cassa rullante, la mia voce di bassi, bassi, medi e alti. Per fare salti, per far ballare il pubblico sugli spalti. E non m'annoio, io no che non m'annoio, non m'annoio. Io no che non m'annoio, non m'annoio. No che non m'annoio, no che non m'annoio. 109 battute al minuto, quando finisce forse ti sarà piaciuto. La chiave per capire questo genere di suono, che a molto orecchio può sembrare un frastuono. E liberare la tua parte migliore, chiudere gli occhi, aprire bene il cuore. Che non c'è musica che vale di più di quella musica che vuoi ascoltare tu. E non mi stanco, io no che non mi stanco, non mi stanco. Io no che non mi stanco, non mi stanco. No che non mi stanco, no che non mi stanco. Io no che non mi stanco. Tempo prezioso. Sono passate mille generazioni, dai rockabilly a punk e capelloni, e metallari, paninari e sorcini, e ogni volta gli stessi casini. Perché i ragazzi non si fanno vedere, sono sfuggenti come le pantere. Quando ricattura una definizione, il mondo è pronto a una nuova generazione. E non m'annoio, io no che non m'annoio, che non m'annoio. Io no che non m'annoio, non m'annoio. No che non m'annoio, no che non m'annoio. E non mi stanco, io no che non mi stanco, non mi stanco. Io no che non mi stanco, non mi stanco. No che non mi stanco, no che non mi stanco. E non mi rompo, e no che non mi rompo, e non mi rompo. Io no che non mi rompo, non mi rompo. No che non mi rompo, no che non mi rompo. Tempo.
Et voilà, c'est Tom qui a trouvé. Alors, quelle est l'originalité du morceau?
C'est Tom qui a trouvé.
Mais il y a Tom qui a
encore des oreilles en fait. Donc, j'ai trouvé qu'il y avait pas d'instrument.
Bah, il y a aucun instrument. En fait,
voilà. Mais ça s'entend du premier coup.
Et vous avez gagné le droit de réparer mon ordinateur personnel. Il y a que vous et Grovitch, rien, il peut pas, il a pas le droit d'y toucher. Alors vous êtes amélioré, Roger. D'habitude, vous avez votre petit carnet à la Colombo.
J'ai mon carnet. Là, j'ai noté revenu. Plein de trucs, mais je ne sais pas comment dire. J'ai noté papiers. Plein de trucs. Moi, il y a des papiers. Il se passe plein de choses en 15 jours.
Ah, vous vouliez parler, ouais, justement de West France, là, comme quoi, il y a des gens qui s'éclatent le 31 décembre.
Il y a des, alors, c'est le fait d'hiver. C'est assez surréaliste. Après la Mère Noël, de chez Noz.
On l'a regardé. De Noël. Je vous assure, il y a que vous qui voyez ça, quoi.
Enfin, c'est... bon. Là, il y a quand même pas que moi qui ai vu le fait d'hiver d'hier dans West France. À moi d'être totalement miro, on peut pas rater une lame de bœuf, une lame dans le bœuf en conserve.
Ah oui.
Du bœuf bourguignon, William Sorin, c'est marqué en gros sur la photo. Bref. Christian Vest n'a pas terminé son déjeuner de la Saint-Sylvestre qu'il partageait avec son épouse. Je vous rappelle quand même que la boîte de bœuf bourguignon coûte quand même 2 € chez Leader Price, là où il l'a acheté.
Je ne prends que des raviolis.
Cet ange-là a trouvé une lame de cutter dans le bœuf bourguignon William Sorin. La lèvre coupée, il a dû consulter un médecin, son avocat a demandé une expertise. Là, on se croirait presque chez Harakiri ou Groland, vous savez, c'est tuer les pauvres. Mettez-leur pour la Saint-Sylvestre une lame de rasoir dans leur boîte de conserve.
Attendez, après s'en débarrasser. Ça se trouve, c'est lui qui l'a mis pour toucher les indemnités, ça c'est
et
vu.
Et vous
ça.
Savez pourquoi vous dites ça? Parce que c'est la suspicion de pauvre. Mais bien sûr que moi, bien sûr que comme vous, on le voit avec son air malin, en train de brandir une lame de rasoir qui rentre à peine dans la boîte de conserve. On sent bien le pauvre, effectivement aigri par sa misère et qui cherche à se venger en mettant une lame de cutter un pot.
Vous avez la longueur de la lame de cutter, quand même en mangeant du bourguignon à un moment plus tard, avant de la mettre dans la bouche, il y a quelque chose qui cloche, quoi, là-bas.
Je dis alors, pas, il faut quand même mange se vérifier, parce que c'est justement parce qu'il est pauvre que vous dites qu'il est coupable et qu'il mentirait afin de traîner la maison William Sorin dans la boue. Et ça, Jean-Loup, c'est dégueulasse de penser
et d'avoir l'euro symbolique de dommages et intérêts, voilà. Pour pas que ça se reproduise. Alors, acheter des raviolis chez Lidl, alors, aucun
je sais
problème
pas, si tout ça n'est qu'une vaste fumisterie, si ça ne l'est pas, ça devient assez surréaliste de voir que West France consacre pratiquement un tiers de sa une,
une lame de bœuf. Comme quoi c'est calme, il se passe pas grand chose,
l'actualité est calme, le million de chômeurs en plus dans les 5 années du mandat de Sarkozy,
l'interview
de les effrayer.
L'interview exclusive de François Hollande, c'est en page 4, 5, 6 ?
Non, ce n'est pas.
Moi, j'ai trouvé
par contre,
très énervé hier.
Ce qui apparaît toujours dans West France pendant les vacances de Noël, paru, c'est l'éditorial de François-Régis Hutin de Noël.
Arrêtez de lire West France, que vous faites du mal.
Oui, mais là, mérite quand même une analyse.
Mais
de
même
texte.
Quand j'achète West France, je ne lis jamais l'éditorial parce que ça me gonfle quelque part. Mais
j'étais chez vous, et je vous ferai dire d'ailleurs que je l'ai chippé chez vous.
Vous faites chier chez moi, en fait.
Non, c'est pas que je l'ai
chippé. Ah, tiens,
le temps que vous vouliez, vous, monsieur, le temps que vous le leviez, j'ai le temps de lire West France.
Alors, que dit-il, cet éditorial?
Gêne et tristesse, ça s'appelle. Parce que vous savez quand même que notre ex, on n'a pas eu le temps d'en parler, ça fait 3 semaines qu'on n'a pas fait d'émission, mais entre temps.
2 semaines.
Mais il s'est passé 3 semaines.
3 semaines.
Et du coup, entre temps, Jacques Chirac a été enfin rattrapé par la justice, si on peut dire rattrapé, entre guillemets, puisqu'il a été condamné qu'à du,
mais 2 ans quand même avec sursis.
2 ans quand même.
Non, rien, même si c'est du sursis.
Et les attendus du tribunal sont assez saignants, quoi. Reconnaissance comme quoi Jacques Chirac a manqué à la fonction de maire, etc., etc. Et, enfin, le système Chirac a été démonté, même si ça s'est accommodé. Truc un peu pas clair, un arrangement entre l'UMP et le PS. Vous savez, l'UMP a dit, il faut combien qu'on vous donne pour étouffer l'affaire. Et Delanoë a pris son crayon. Il a écrit, vous savez, un peu façon mafia, il a écrit un chiffre sur une feuille. Sarko a regardé la feuille. OK. Et il a fait le chèque. Voilà comment Jacques Chirac ne va pas en taule. Parce que sinon, la ville de Paris, elle, ça était toujours en droit de poursuivre Jacques Chirac, et le sursis aurait pu se transformer au moins en amende pour cet ex-président dont le tribunal a quand même reconnu pleinement les fautes.
Le pauvre homme, vous dites dans quel état il est, il a plus toute sa tête.
On ne va pas s'acharner
sur un vieillard quand même.
Il
nous a invité d'aller en Irak, faut pas l'oublier.
Il n'y a plus que lui qui a pas toute sa tête. Il y a aussi le père François-Régis Hutin qui pète un câble carrément lorsqu'il parle de gêne et tristesse à propos de cette condamnation, lorsqu'il dit tristesse parce que cet homme avait le prestige qu'il fallait pour représenter la France et le panache. Alors voilà, il suffit d'avoir du panache, ça vous met au-dessus des lois. Qu'est-ce qui vous met aussi au-dessus des lois? C'est le fait que, selon toujours François-Régis Hutin, Jacques Chirac avait aussi, dans l'exercice de ses fonctions, cette chaleur humaine qui le rendait sympathique à beaucoup. Salut Jean-Loup!
Attendez, pour être au-dessus des lois, il suffit pas d'être président, il suffit d'être industriel forain, comme vous dites. Et là, il n'y a aucun problème, vous faites votre loi, votre
C'est un peu pareil, mais je vois pas pourquoi les industriels forains respecteraient les lois si le président de la République ne respecte pas. Tristesse aussi de voir à travers lui la fonction de président de la République en quelque sorte dévalorisée, car le président ne serait plus qu'un simple personnage parmi tous les autres, alors que tout de même, la nation se trouve en quelque sorte concrétisée en lui. On retrouve un peu le vieux fondement chrétien de François-Régis Hutin. Vous savez, là, comment ils appellent ça, là, le corps, le Saint-Esprit, le Fils, le Saint-Esprit, bah
c'est,
etc.
C'est Ouest France, quand même, aussi.
Et du coup, il suffit, vous êtes un peu loin. Vous êtes loin par la fonction présidentielle qui, ça y est, vous êtes un petit peu, vous êtes quand même, ben voilà, vous avez couché avec Marianne, et donc, du coup, vous êtes intouchable. Vous voyez ce que je veux dire?
Non, mais vous êtes quand même un bon suppôt de l'éditorial, parce que vous êtes la seule
Méritait-il
personne.
Méritait-il cette épreuve au soir de sa vie? Malaise, gêne, tristesse, encore, car Jacques Chirac a consacré son service, sa vie au service de la France. On doit le reconnaître, même si on n'a pas été toujours d'accord avec lui. Et président, il l'a servi avec rectitude, c'est pas ce qu'a reconnu pourtant le tribunal. Le vieil homme qu'il est devenu ne méritait sans doute pas cette épreuve au soir de sa vie. Voilà. Eh ben, c'est bien, François-Régis, mais il faudra que t'expliques ça aussi au Mouloud qui viendra brûler ta bagnole, il faudra pas venir couiner, parce que je vois pas pourquoi on pourrait pas brûler ta bagnole si un président de la République ne peut pas s'en mettre plein les poches.
Par contre, ce qui m'étonne, c'est que vous nous lisez à l'éditorial de...
Il y a trois semaines.
Non, c'est pas ça de François-Régis Hutin que personne ne lit,
Mais il est là,
vous.
Il est là.
Et du coup, bah, non.
Si, à notre invité, j'allais vous le lisez.
Ah bah oui,
aussi.
Là, je peux pas. Et pour les gens qui l'avaient pas lu. Justement, je les lisais pas tous, hein, les Ouest de France, mais celui-là, je l'avais eu entre les mains aussi, et sous les yeux, j'avais effectivement lu cet éditorial. Moi, ça m'a évidemment fait réagir aussi dans le sens où c'est une sorte de solidarité des très très seniors et des très 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 puissants, parce que là, ouais. À ces deux titres, ils ont été forcément en contact, hein, et c'est quand même le patron du premier groupe de la presse nationale.
Voilà. Et c'est vrai que la droite n'a jamais été trop embêtante vis-à-vis de l'Empire Ouest-France.
Je crois que la grande force de Chirac, tout simplement, c'est que c'est un des rares présidents qui est réellement populaire. Je parle en abstraction de toute son action politique, mais les gens aiment bien, ou la plupart des gens aiment bien Chirac, et qu'on va pas le faire chier, quoi, là.
Alors que les Belges avaient résolu le problème. Vous vous rappelez, les Belges ont tenu près d'un an et demi sans gouvernement, et la Belgique, que ça tournait. Or, il a fallu que Elio Di Rupo, le nouveau, comment dirais-je, après 542 jours, la Belgique a enfin un gouvernement à sa tête, pour la première fois un premier ministre francophone, Elio Di Rupo, patron depuis 99 du Parti Socialiste, est au pouvoir. Ça n'a pas manqué, 15 jours plus tard, il y avait une grève, et si vous vouliez aller à Bruxelles, vous l'aviez dans le cul, c'était en rapport avec les nouvelles lois sur la retraite. Débarrassons-nous, une fois pour toutes, des gouvernements, et ça marchera bien mieux.
On marchera de manière originale, c'est ça?
Un gouvernement, un pays qui a tenu sans gouvernement pendant plus de 500 jours, pas de grève, tout tournait, vous preniez le train, vous étiez à l'heure. Le gouvernement arrive, tiens, je vais faire une loi sur la retraite, poum, grève.
Ou enfin, la Belgique, c'est quoi? C'est un département et demi français. Hein,
ça explique quoi? C'est pas compliqué. Ça peut très bien tourner sans gouvernement. On devrait essayer.
Oui,
une petite dernière pour la route.
Oui, allez-y, je vous sens. Enfin, il vous en reste deux.
Oh, il m'en reste plein d'autres, mais je les ferai après. Ah, bon. Parce qu'on a quand même des invités et puis ils leur tournent.
Ne les oublions pas.
100 millions de dollars. Tiens, 100 millions de dollars. C'est le montant mensuel des impôts et taxes douanières qu'Israël refuse de transférer à l'autorité palestinienne en représailles à l'admission de la Palestine comme l'État membre de l'UNESCO. En clair, la Palestine est reconnue membre à part entière de l'UNESCO par les autres membres de l'UNESCO, et pour les faire chier, Israël dit, ah ben vous êtes reçu à l'UNESCO, c'est bien, on va vous piquer tous les sous auxquels vous avez droit de droit, hein, parce que ça, ce sont des sommes d'argent que les Palestiniens doivent encaisser en échange des produits qu'ils exportent, c'est ça que ça veut dire. On a donc effectivement un État israélien qui dit, ben voilà, le pognon, c'est pour nous. Et
qui ressemble un petit peu aux industriels forains, en fait. Les Palestiniens leur faisant concurrence pour leur pays, c'est la même chose. Les Palestiniens leur font concurrence pour leur propre pays.
Non, mais là, c'est une punition. Ça, c'est pour dire, ben voilà, comment dirais-je, comme vous avez été élu à un truc, ça nous plaît pas que vous fassiez partie de ça, et ben vous êtes puni. Voilà.
Un petit disque ou une petite dernière, c'est parti.
Au Pissou.
C'est parti.
Et un disque, Sagrovitch, pensez, réfléchis.
Ça va bouger, au moins ça va réveiller un peu, et ouais, c'est réfléchi un petit peu plus que certaines versions, je sais pas ce que c'est. C'est un animal comme toi.
Ouais, là il y a des instruments là.
Voilà. Il y a des instruments.
Oui, bah c'est bien.
Jean-Christophe, c'est vraiment génial, Jean-Christophe, de devenir un animal comme toi. temps que notre bonne vieille terre tourne, l'homme n'a eu de cesse que de taquiner son voisin et de se complaire dans la bêtise et la couardise. Prêt à tout pour révéler ses failles dans l'histoire de l'humanité, le cartel Grignoux et associés vous présentent leur grand documentaire intitulé « On vous l'avait bien dit, on vous aura prévenu ».
Moi, je trouve qu'il est très bien, ce jingle-là. Il colle pile poil. Oui, on ça vous avait bien dit, on vous l'aura prévenu.
Bah, depuis le temps qu'on le dit, personne ne nous croit. C'est ça le problème, quoi, là.
Et est-ce qu'on vous croira, vous, cher invité? Je ne sais pas. Donc, je rappelle aux gens qui prendraient l'émission en route, nous sommes en compagnie de monsieur Gianni Pérez. Bonsoir, rebonsoir.
Rebonsoir, c'est ça, ouais.
Voilà. Et qui est là pour nous parler ce soir d'un film qui va bientôt sortir le 11 janvier, je dis pas de bêtises.
Ben non, c'est une semaine, jour pour jour.
Yep.
À partir de maintenant.
Voilà, le 11 janvier. Et donc, ce film-là qui s'appelle Les Nouveaux Chiens de Garde, traître.
Je sais pas ce que vous avez.
Je sais pas ce que j'ai.
On a parlé trop d'Afrique.
Non, mais je voulais dire traître entre autres.
Traître entre autres
de la collusion qui existerait ou qui existe entre les puissances de l'argent, comme disent certains partis politiques, et les médias.
Alors moi, j'ai une question à poser pour commencer. Comment s'appelle ce film?
Ah, le film s'appelle Les Nouveaux Chiens de Garde.
Voilà. Donc,
c'est précisé. Pas dit.
Si, mais je crois que c'est... Ah, c'est quoi Les Nouveaux Chiens de Garde? C'est c'est le titre du film ou c'est une association?
C'est le titre du
film. C'est le titre du film, mais qui, en fait, donc, a déjà été créé, en fait, par Serge Halimi lorsqu'il a écrit un essai il y a maintenant, donc, je fais le calcul, 12 ans. Mmh. Et donc, il s'en inspire, mais c'est pas tout à fait l'adaptation du livre. Pourtant, c'est le sujet qui est proche, mais le traitement, bien sûr, assez différent.
Et qui s'est chargé donc de l'adaptation du livre alors?
Alors justement, il fait partie néanmoins Serge Halimi de l'équipe des scénaristes, hein, donc avec les deux co-réalisateurs qui sont aussi co-scénaristes, donc Gilles Balbastre et Yannick Kerguat, mais il y a aussi trois autres personnes dont l'un apparaît dans le film d'ailleurs, Renaud Lambert qui joue leur journaliste qui piège un certain nombre de personnages du film, parce que justement une des choses amusantes qui a été faite pour le film, c'est le visuel de l'affiche où donc ils font apparaître tous ceux à qui ils vont régler leur sort en fait, mais en les faisant apparaître comme finalement les acteurs du film, puisque c'est un documentaire du coup, un film de montage d'images d'archives en particulier, mais aussi donc de sujets qu'ils ont filmés, mais qui du coup est un long métrage et qui est distribué donc en salle de cinéma, pas pour une déclinaison télé. Et donc voilà, et du coup ils ont joué le jeu à fond d'une affiche comme ça qui serait justement un peu en écho de films qu'on voit dans le cinéma français en particulier, avec beaucoup de personnages qui sont mis sur l'affiche. Et ben là, ils ont carrément mis tous les acteurs de premier plan, c'est-à-dire tous les journalistes, les hommes politiques et les patrons qui sont mentionné dans le film.
Et en étant un peu provocateur, est-ce que c'est pas enfoncer une porte ouverte quelque part, la collusion entre les médias, pouvoir, finance, pognon, elle paraît évidente quelque part, ou est-ce qu'on s'est fait à cette idée-là petit à petit, alors que c'était pas évident à l'origine?
Alors, c'est vrai que le sujet n'est pas neuf, et on pourrait dire hélas, parce que, en définitive, c'est une affaire qui dure depuis longtemps. Leur propos, c'est, je pense, plus d'insister sur un certain nombre de liaisons fortes, parce que justement, il ne s'agit pas de faire une critique globale, en tout cas du journalisme et des médias, mais bien de souligner comment, au plus haut niveau et dans la constitution même de certaines émissions, de certains types d'émissions, il y a donc un réel problème. Et il ne faut pas se voiler la face, ils le font aussi avec une sortie. Au début d'une campagne électorale, ils ont aussi envie de, sans doute, de faire rebondir ce débat dans ce cadre-là.
Et avec un truc qui est assez intéressant, c'est que, au fur et à mesure du film, c'est-à-dire que quand le film débute, la première scène, on voit Léon Zitrone, le gros Léon, que nos plus jeunes auditeurs ne peuvent pas connaître, qui était l'inamovible présentateur du journal télévisé de la chaîne unique en noir et blanc, le Léon Zitrone, qui reçoit Alain Perfitte, qui est ministre de l'information à l'époque et qui vient dire en direct au journal télévisé désormais comment devra être organisé le journal télévisé. Et on se croirait un peu sur TV Moscou. Le film commence avec cet extrait-là. C'est assez flippant. Et puis du coup, et c'est là où justement Jean-Loup, comment le sujet devient original, c'est que on interviewe, après on voit une interview de journalistes actuels qui disent bah oui, maintenant ça a changé, maintenant ça n'a plus rien à voir, il n'y a absolument plus de collusion entre le pouvoir pouvoir politique et, comment dirais-je, et les médias. Et en fait, aujourd'hui, c'est pire. C'est-à-dire que c'est pire dans la mesure où c'est même presque le débat politique. On se croirait, vous savez, dans la World Company, est-ce que je me trompe un peu dans les guignols quand on voit mais, les répliques de Stallone, là, vous savez, les clones de Stallone qui disent « Mais le président, il contrôle rien, c'est nous qui contrôlons. » Et il y a un peu ce discours-là. Est-ce que je me trompe, Jean?
Non, non, il y a effectivement, à un moment donné, dans le film, justement, une allusion au fait que si, pour l'instant, donc le président en place a pu servir la cause des intérêts donc économiques, ils sont prêts à le clairement à le remplacer en fait. Et donc justement le film permet d'utiliser des images animées très très sympas, très novatrices. Et donc il ne s'agit pas non seulement d'un film de documents montés, mais il y a aussi une insertion comme ça de petits personnages qui incarnent les différents patrons de presse. Et là en particulier une scène mémorable avec un Sarkozy en biker qui est vraiment excellent, quoi.
Un dessin animé où on voit, le jour où on n'aura plus besoin de Sarko, on reprendra un autre champion. Et c'est là où ça devient effrayant. C'est que, et il y a aussi une scène sur laquelle on reviendra peut-être avec Yannick Kerguat aussi. C'est, il y a une espèce de secte, Jean-Loup, dont j'ignorais totalement l'existence avant d'avoir vu ce film-là, là. C'est que, tous les mois se tient, alors, le repas de, on appelle ça comment? Le repas du siècle, c'est
oui,
ça?
Oui, c'est ça. Le siècle, c'est un club, qui en fait, bien sûr, comme souvent c'est le cas dans les clubs, fonctionne par cooptation. On est
très fermé, comme on dit.
En clair, on n'est pas invité, Jean-Loup. Mmh.
Parce que là, effectivement, au garrot, il faut peser plusieurs millions d'euros, ou alors justement avoir un accès média extrêmement large. Et donc, c'est à ce titre-là qu'on voit dans le film arriver donc devant l'hôtel Crillon, où se tient donc sur la place de la Concorde à Paris, se tient ce dîner du siècle, où en fait, on voit donc se succéder tout un tas de personnages. Là aussi, ils utilisent l'infographie, donc par insertion sur les images, on a un déroulé qui est parfois très très long, et parfois donc il faut passer donc en arrière les images pour avoir le temps de faire apparaître la totalité des postes d'administratrice dans les sociétés d'une des personnes, et donc ils viennent pour se parler. Donc alors Pierre Karl dans son dernier film avait déjà mis en scène cette situation parce qu'il voulait piéger David Pujadas, qui justement apparaît aussi sur ces images. Mais encore une fois là, même si c'est quelque chose qui est assez méconnu, c'est quelque chose qui est très régulier. Ça fait maintenant je crois plus de 10 ans que ça fonctionne. Et voilà, ça
une
peut
fois
donner
par mois, voilà, les grands des puissances financières en France, les représentants des grandes puissances financières et économiques, etc., et les journalistes multicartes, ceux qu'on voit partout, Europe 1, TF1, etc., etc., se retrouvent une fois par mois pour manger ensemble. Et il y a une condition, la condition pour pouvoir participer à ce club, c'est que rien ne doit sortir de ce qui est dit.
Tout à fait. Bien sûr, là, l'engagement à ce que rien ne filtre, effectivement. Et donc, par contre, on s'aperçoit que finalement qu'on peut finalement le savoir, parce que c'est tout le, je sais plus quel jour du mois, enfin c'est voilà, c'est à date fixe, et donc on peut les voir comme ça du coup surgir, hein, parce que là il n'y a pas eu de dispositif pour planquer, on voit qu'il n'y a pas de service de sécurité, enfin ça pose aussi question, quoi. Ou alors effectivement il y a des gens civils qui sont autour pour servir, voilà, on voit pas en tout cas de képi sur les images, quoi.
Voilà. Alors on va revenir à un point de vue plus un point plus général. Donc c'est vous qui avez permis entre autres que ce film puisse être, comment dirais-je, diffusé en avant-première à Rennes. Du coup c'est comme ça que vous nous avez contacté.
Oui tout à fait, hein, parce que c'est quelque chose qui a été progressivement donc élaboré dans le courant de l'automne, mais c'est pas du tout mon job. C'est vraiment un concours de circonstances heureux qui a conduit à cela, puisque justement, je suis ami d'un des deux co-réalisateurs, mais avec lequel j'ai pas des relations très très fréquentes. Mais disons qu'on se connaît assez pour qu'ils pensent à moi dans leur repérage. Donc c'est comme ça qu'il me l'a présenté la première fois. C'est un peu étonnant quand un ami vous dit ça. Je voudrais que tu sois ma tête de pont. Donc plus sérieusement, c'était en fait être le relais donc sur la ville de Rennes pour faire en sorte que le film soit montré à un public choisi, parce que leur approche aussi de la distribution du film est un peu particulière, quoi. Ils ont envie de le faire connaître au plus large public possible, bien sûr, mais en essayant aussi de le faire connaître dans les cercles militants ou associatifs ou politiques éventuellement, qui donc pourraient justement se l'approprier aussi, quoi, l'utiliser comme un outil éventuellement pédagogique ou pour aussi faire pression aussi sur les médias, certainement pour avoir une meilleure visibilité.
Ouais, non, je veux dire, un petit disque, parce que j'ai plein de questions à poser, là, et puis il faut qu'on respire un petit peu. C'est parti.
Programmation à Roger. Tiens, un morceau d'un, du fils de Rory Gallagher. Et qui s'appelle, j'ai oublié le prénom, bordel, je n'ai pas le...
Elvis.
Noël Gallagher. C'est, vous allez voir.
C'est le mec de Oasis, Noël Gallagher, non?
Non, c'est Rory, je crois.
Ouais, c'est Rory. Ah. Tu vas me parler de ce que vous connaissez, ce que vous maîtrisez. Vous me fichez la honte, là, ce soir.
Oui, mais Noël.
J'ai beaucoup misé sur
son fils.
Ah, voilà.
Bah, on s'écoute,
c'est ce que j'aime dire, bordel, c'est quand même terrible.
C'est dingue, ça.
Bon, ok, je me tairai prochain coup.
Bah oui, taisez-vous.
1, 2, 3, 4.
Toujours.
Normalement, la lumière.
Ah non, mais la lumière. J'ai l'impression d'avoir un interrogateur de la Gestapo.
Parlez.
Quoi, si on mettait un petit LED rouge, peut-être que ça pourrait le faire. En fait.
Ah non, parce que moi, ça, il me faut demain là, du coup. Et
de toute manière.
Faut demain, bah vous avez demain, non?
De toute manière, Grovitch est en train de lancer une pétition en ligne.
Monsieur,
on avait prévenu.
Combien de fois faudra vous le dire?
Pour la lumière rouge, vous cochez et au bout de, je sais pas, 5000 ou 7000, on a le droit à notre putain de lumière rouge.
Mais bah, on s'éloigne du sujet. Le sujet étant Gianni Perez qui est là pour nous parler d'un film qui s'appelle Les Nouveaux Chiens de Garde. Les Nouveaux Chiens de Garde, co-réalisé par donc Serge Halimi. J'ai noté Gilles
Balbastre.
Balbastre. Et Yannick Kerguat et d'autres encore. Dont
alors là, c'était pour les scénaristes, mais effectivement, il y a deux réalisateurs qui se sont associés. Donc Gilles Balmastre, donc le, mon ami, donc que j'évoquais tout à l'heure, et puis Yannick Kerguat, et donc c'est Yannick qui était venu pour présenter le film lorsqu'il a été diffusé en avant-première au cinéma Larvor le 17 décembre dernier. Il avait fait le déplacement donc pour rencontrer les spectateurs. Et du coup, c'est pas tout à fait le dispositif qu'ils avaient envisagé dans un premier temps, parce que Jacques Fretel, donc le programmateur et donc responsable de la programmation de Larvor, eh bien a souhaité en fait élargir le public et donc a fait pendant une semaine la promotion de cette avant-première dans le cinéma Arvor. Ce qui fait qu'on a eu non seulement les personnes que j'ai contactées, qui étaient donc une bonne trentaine, mais en plus, en fait, quasiment 70 personnes qui sont venues par intérêt pour le film tel qu'il était présenté, donc dans le petit visuel qui était mis dans l'entrée de l'Arvor. Donc voilà, ça donne bien sûr une impression très très favorable, quoi. On était très contents d'avoir cette belle salle. Et du coup, le débat a été enrichi aussi parce que il n'y avait pas justement que des personnes contactées qui avaient un caractère plus déjà bien sûr concerné, voire militant, mais il y avait des gens qui étaient là pour un intérêt beaucoup plus personnel et ils ont pu s'exprimer.
Voilà. Et donc du coup Yannick Kerguat, on va l'avoir un petit peu par téléphone.
Oui, tout à fait. Là, je vais effectivement le prévenir qu'on va l'appeler puisqu'il vit sur Paris et puis il a bien voulu donc répondre à des questions tout à l'heure.
Et par contre, auparavant, comment dirais-je, une question, je crois que Jean-Louis avec des questions également aussi. Là, on vous avait branché, vous, comme étant une tête de pont. Parce que pour ce genre de film, le souci, c'est un peu la distribution, en fait, quelque part.
Effectivement, alors, c'est vrai qu'il y a les précédents, justement, j'évoquais tout à l'heure les films de Pierre Carles qui ont donc eu aussi, comme ça, des sorties nationales. Alors, bien sûr, on voit un petit peu l'économie du cinéma actuellement. Il y a une rotation importante, l'objectif c'est de rester 15 jours. Là, il s'agit pas en plus d'une distribution, bien sûr, dans les grandes maisons, pas les multiplex, hein, donc c'est dans le cadre en fait de la programmation du CTNB qui sera visible à Rennes. Par ailleurs, donc
au niveau national, comment ils se débrouillent alors?
Là justement, ils ont pu bénéficier d'une structure vraiment professionnelle, parce que pour ce genre de projet, c'est pas toujours bien sûr commode vu le sujet plus particulièrement qu'ils ont développé par ailleurs. Et donc ils ont en fait pu tout simplement convaincre quelqu'un qui a les moyens et qui a aussi les relais pour le faire. Il s'agit d'un homme assez étrange par ailleurs, qui s'appelle Jacques Kirsner et qui est le producteur exclusif donc du film, parce que le film
qu'on appelle un producteur en fait?
Ah ben c'est celui qui a
le pognon, c'est ça là.
Ouais, voilà,
qui avance l'argent.
C'est vrai que c'est pas toujours très clair. Pour une œuvre cinématographique, on va distinguer effectivement le réalisateur, qui peut être parfois le scénariste, bien sûr, mais il y a aussi donc tout l'aspect financement. Et donc ici, c'est un producteur, mais qui a en fait une petite maison de production, hein, qui s'appelle JEM, mais qui a par ailleurs une notoriété certaine, parce qu'il a réalisé énormément de téléfilms et même de films de long métrage depuis une bonne trentaine d'années. Mais ce qui le fait un personnage étrange, c'est qu'il a également une ancienne, en tout cas, casquette politique, si on peut la quitter. Il a été un des dirigeants de l'OCI, l'Organisation communiste internationaliste, donc un des mouvements trotskistes français, et donc très actif dans ce champ-là aussi. Donc il a mis vraiment les choses en œuvre pour que le film soit à la fois bien produit, hein, donc ils ont bénéficié de moyens techniques importants, mais aussi donc ensuite bien distribué, parce que du coup l'autre aspect c'est de pouvoir aussi avoir une maison de distribution qui va faire le lien, parce que je tiens à préciser que justement il m'a chargé de contacter des personnes représentantes d'organisations intéressées par le sujet. En revanche, c'est la maison de distribution qui s'est occupée du contact à prendre avec donc monsieur Fretel et qui a suivi les choses, mais qui a relayé aussi donc le bon écho du coup qui a été fait au film.
Et il y a une des scènes du film, je m'en souviens parce que j'étais petit quand j'avais vu ça en direct. On voit Yves Morosi et Marie-Laure Aubry. Voilà là.
Aubry.
Et quand TF1 a été racheté, entre guillemets, je résume un petit peu, par Bouygues, qui porte le casque de Bouygues. C'est une provocation, parce qu'aujourd'hui on verrait. C'est marrant parce que ça a 25 ans cette histoire-là. Est-ce qu'aujourd'hui on pourrait voir des journalistes qui se permettent justement d'ironiser sur le fait que la chaîne de télé a été achetée par un grand groupe industriel?
Ah, c'est vrai que c'était la première fois. C'est quelque chose qui a été repris justement dans le dernier film de Pierre Karr, parce qu'il n'y a pas eu de remise en cause en fait de ce type de convention qui a été attribuée à TF1. Il faut se rappeler que l'autre en lice en finale c'était Lagardère, donc c'était pas forcément de toute façon fondamentalement différent.
Entre la peste et le choléra,
c'était de toute façon effectivement un grand groupe industriel qui était derrière. Alors après il y a eu bien sûr la controverse avec la télé de M que Polak avait relayé, donc ça
bagarre au bistrot de TF1 avait titré Libération voilà. Le lendemain.
Mais depuis Bouygues a vraiment évolué, et je pense que maintenant il est beaucoup plus associé à la téléphonie mobile et donc à ce genre de choses que par ailleurs à son cœur de métier initial qui est le bâtiment travaux publics. Mmh. Hein, donc
je crois qu'il fait plus de pognon avec le travaux, mais d'ailleurs il risque d'en faire encore plus. Vous savez quand même que Bouygues vient d'intenter un procès au Canard Enchaîné. Il réclame pas moins de 9 millions d'euros de dédommagement au Canard Enchaîné, alors pour un délit très grave, pour avoir atteint à l'honneur du canard de la maison Bouygues en disant que il y allait avoir une enquête sur l'attribution du marché, vous savez, du Patagone à la française.
Ah oui.
Va y avoir, c'est-à-dire que Sarko, il a eu son avion de guerre, il a eu son avion pour se trimballer, et il veut faire comme les Américains, il veut que les Français eux aussi aient un Patagone, c'est-à-dire quelque chose sur quoi les Russes savent viser précisément le lieu précis où on mettra tout notre matos, que les Russes atomiseront en premier et que les barbus auront noyauté ne serait-ce que par la femme de ménage au bout de 15 jours. Bref, il veut ça, et naturellement, faut du béton, faut creuser des souterrains, vous imaginez, pour mettre des militaires, des bombes et tout, on les enterre, comme des termites. Et comment dirais-je, vous savez qui a eu l'attribution du marché?
J'hésite.
Il y avait Bouygues.
Bouygues
wow, gagné
sur 3, je suis tombé dessus. Vous êtes bon.
Il semblerait quand même que cette attribution n'ait pas été. Alors je fais gaffe à ce qu'on dit parce que nous on n'est pas le canard enchaîné, on n'a rien sous le plumage, comme il disait d'ailleurs en réaction à cette tentative de procès en tout cas. Et du coup. Ouais, il y a plus de un gros problème avec Bouygues, c'est que je pense qu'il fait bien plus de pognon avec le bâtiment.
Ouais, c'est sûr. Alors pour revenir un peu sur le sujet, c'est aussi le problème que Martin Bouygues est un très proche ami de Sarkozy,
ouais, voilà. C'est le parrain de la. Et donc du coup, c'est pour ça qu'effectivement, il aurait bénéficié au conditionnel d'un avantage particulier.
Oui, apparemment aussi, on parlait de Canal+ aussi, qui avait des relations. Enfin, c'est peut-être une rumeur assez proche avec le RPR. Vous vous souvenez des fameuses marionnettes où les guignols ont quand même participé indirectement à. On en parlait tout à l'heure au début de l'émission, à populariser le personnage de Chirac, et même quand il intervient de nos jours. Il est drôle, il est rigolo, il est sympa.
Sauf que malheureusement, alors,
est-ce qu'ils se sont plantés justement dans la manière de présenter Chirac, ou est-ce qu'il y a une collusion entre le RPR et Canal+? Je sais pas, c'est une question comme ça que je pose au passage.
Ah, c'est sûr que on a effectivement les souvenirs précis de manger la pomme, et puis ensuite quand il était aussi en but
même
à la violence
il est
de
toujours sympa,
et là du coup oui, il est assez peu égratigné, on a
oui, mais est-ce que c'est pas
l'aspect
parce que
bonhomme qui est plutôt mis en avant, ouais.
Est-ce que c'est pas parce que tout simplement c'est la marionnette qu'ils ont la mieux réussi là au Hollande? Hollande ils l'avaient pas au début. Et donc maintenant ils sont emmerdés parce que ils veulent pas vraiment avoir à passer s'ils mettent la marionnette. Est-ce que vous avez remarqué qu'ils ne mettaient plus le Hollande de il y a 2 ans par exemple, le Hollande complètement crétin.
Il a maigri.
Ouais, mais déjà, il a maigri, mais en même temps, on fait gaffe à ce qu'on dit, qu'on nous accuse pas une fois de plus d'avoir roulé pour Sarko. Sarko, ils sont emmerdés aussi. Sarko, c'est pas un personnage il est là avec sa Carla, il parle mielleux et tout, mais le seul qui est drôle, c'est Chirac. On le voit revenir en chemise. Ah, oh, maman, tout est cher. Avec Sarkozy, on ne pourra jamais s'en sortir. Et je crois
il en devient
plus
populaire.
Ouais, mais est-ce que c'est pas un problème tout simplement parce qu'ils ont bien réussi cette putain de marionnette et raté les autres?
Et il y a beaucoup de gens qui font pas du tout la différence aussi entre la marionnette et le personnage réel. Malheureusement, ils se rendent pas compte qu'on c'est une caricature.
Est-ce qu'il y a une différence en ce qui concerne Chirac? Je suis même pas sûr.
On n'a pas été en Irak. C'est déjà pas mal.
On n'a pas été en Irak. Bref. Je ne sais pas, on s'écoute un petit dix, c'est après on essaye de choper Yannick Kerguat alors
comme
à ce moment-là.
Très bien, entendu.
You just got to tell me that I ain't doing right. You got yourself a new dress.
bien, nous sommes toujours le mercredi ou le dimanche, si on écoute la rediffusion de cette émission. Nous sommes toujours en compagnie d'Aigrignou et en compagnie de Gianni Perez. Et maintenant en compagnie de Monsieur Yannick Kerguat. Bonsoir.
Bonsoir.
Ah, est-ce qu'on peut y a moyen de mettre Monsieur Yannick Kerguat un peu plus fort dans les retours?
Alors voilà, vous m'entendez mieux si je parle plus fort.
Non, c'est chez
évidemment,
nous pour
je suis désolé de pas être là en chair en os avec vous dans le studio. Ça se passe par téléphone et je le regrette, mais voilà, on va faire avec.
D'accord. Très bien, il n'y a pas de problème, je vous entends très bien personnellement.
Alors donc vous, en compagnie de, comment, bah, par exemple, de, j'ai noté hein, les noms de Serge Halimi, de Gilles Balbastre, comment dirais-je, et d'autres personnes, vous avez donc comment co-réalisé ce film documentaire Les Nouveaux Chiens de Garde.
Voilà, un film voilà qui sort au cinéma le 11 janvier, donc co-écrit avec... Serge Halimi, Pierre Rimbert, Renaud Lambert, et co-réalisé, que j'ai co-réalisé avec Gilles Balbastre, effectivement.
Et donc, du coup, vous êtes rentré comment dans cette histoire? Vous avez participé à partir de quel moment?
On a tous démarré à peu près en même temps, hein, puisque l'initiative de ce film, elle vient de son producteur. C'est avant tout le souhait de Jacques Kirchner, hein, qui produisait du documentaire et des téléfilms pour la télévision, qui s'est fait cette réflexion et s'est dit je trouve que les médias d'information en France se sont terriblement dégradés et sont aujourd'hui d'une certaine manière un facteur de qui va contre les questions démocratiques aujourd'hui, hein, sont un danger pour la démocratie, hein, tout simplement. Donc il a réuni autour de lui une équipe de personnes pour écrire et puis pour réaliser ce film.
À partir de l'ouvrage de Serge Halimi.
Voilà, alors il a d'abord contacté Pierre Rimbert, qui était l'auteur d'un livre sur Libération, qui s'appelle Libération de Sartan Rothschild, qui lui a fait rencontrer Serge Halimi, il a lu le livre de Serge, etc. Et donc l'idée est partie de là. Donc, à proprement parler, le film n'est pas une adaptation du livre de Serge, même si on a gardé le titre « Les Nouveaux Chiens de Garde ». On l'a gardé surtout parce que aujourd'hui, il est un peu passé dans le langage courant, en tout cas dans le langage courant de ceux qui s'intéressent un petit peu de près à la question de la critique des médias en France. Donc on a gardé ce titre, mais évidemment, c'est un film. Donc, par définition, c'est assez éloigné de ce que peut être un essai, hein, même si les grands thèmes, les grandes questions qui traversent le film, les grandes questions qui sont posées, on les retrouvait déjà en 1997 quand a été publié la première fois le livre de Serge. Ouais.
Donc c'est véritablement, on en parlait un petit peu avec Gianni tout à l'heure, c'est aussi le constat d'une dérive dangereuse vis-à-vis de la mainmise. Alors ce qui est, quand on a vu votre film, on en sort, enfin moi c'est mon sentiment, je m'en sortais, j'avais eu l'impression d'être tout petit, parce que là c'est Big Brother un peu, ce n'est même plus tant un complot entre un certain pouvoir politique et les médias, c'est carrément au-dessus, c'est un peu ce que les guignols représentent par leur clone là de Sylvester Stallone, qui sont là, la World Company, mais à la française.
Oui, alors au-delà effectivement des personnes que nous nommons les chiens de garde, le film dénonce des processus, hein, des mécanismes, on va dire, à l'œuvre et qui ont contribué et qui contribuent encore aujourd'hui à transformer en profondeur, profondément, la question des médias en Occident. Et nous, on s'attache évidemment à ce qu'on connaît le mieux, hein, donc à l'exemple français. Donc oui, non, il ne s'agit pas de complot, hein, il ne s'agit pas d'une théorie du complot. On ne prétend pas qu'une petit groupe de personnes aurait une mainmise directe, etc., et comploterait pour faire... non. Le film va effectivement au-delà de ces idées-là. Par contre, il s'attache à démontrer, à prouver, voilà, une certaine forme de dérive de ce que sont aujourd'hui les médias d'information en France. Et cette dérive, elle prend différentes formes, hein, évidemment. Et le film aborde un certain nombre de ces questions pendant une heure quarante que dure le film. On passe en revue un certain nombre de ces questions. Voilà.
C'est donc, est-ce qu'on peut résumer ça, ou c'est peut-être un peu comme aussi une critique du journalisme, parce que à travers ça, il y a aussi des hommes et des femmes qui acceptent de faire ça.
tout à fait, c'est une critique d'un certain journalisme, évidemment, pas du journalisme lui-même, pas l'idée du journalisme, hein, au contraire, hein, c'est un film de défense du journalisme, mais de critique, et de critique très virulente, je crois qu'on peut le dire, on peut même dire une critique très agressive d'une certaine forme de journaliste et de certains journalistes. Hein, puisque on prétend qu'on ne peut pas comprendre un système si on ne nomme pas et on ne décrit pas les hommes qui en font l'usage. Voilà. Donc pour comprendre, il faut nommer. Voilà. Et c'est ce que fait le film.
Et moi, il y a une petite question que je me pose qui a l'air assez paradoxale. Quand je regarde les journaux télévisés des chaînes publiques, que ce soit FR3, ou on dit ça, ou la 3, FR3, ou je ne sais même plus.
Moi, je dis
la 3.
Je suis pas sûr, Jean-Loup, qu'on dise encore FR3. On date un peu, nous.
Et France 2, et souvent, j'aime bien regarder France 3 de 19h30 à 20h, et j'embraye sur TF1, et j'ai vraiment l'impression que la chaîne publique est beaucoup plus libre, quelque part, où les journalistes n'hésitent pas à ironiser, à ce genre de choses, que sur des chaînes privées où on pourrait penser justement que ces chaînes-là soient plus libres. Est-ce que je me trompe ou est-ce que c'est une réalité ?
Non, je pense qu'il y a encore des différences sensibles aujourd'hui entre le service public et les chaînes privées. Je pense que ce qu'on dit, c'est que ces différences sont très clairement en train de s'estomper. Hein, et à l'intérieur même des chaînes privées, je pense qu'il y a une vraie différence aujourd'hui entre les éditions de France 3 et les éditions du journal de France 2. Je pense que c'est très sensible. Alors c'est ça s'explique par l'audience, ça s'explique par la pression de l'audience, ça s'explique par les conditions historiques, hein, d'évolution des deux chaînes publiques, etc. Ce qu'on prétend démontrer, c'est que on trouve aujourd'hui des journalistes qui passent sans vergogne justement du privé au public et surtout l'inverse, hein, du public au privé, et que c'est à travers justement ces allers-retours entre des journalistes vedettes qui sont à la fois dans le service public et sur une radio privée, qui sont à la fois à la tête d'un journal et puis qui animent une émission dans le service public, etc., etc., que justement se réduisent les différences et que s'estompe justement la mission de service public d'information qu'on devrait attendre d'un service public d'information.
Alors, il y a dans votre film aussi, on voit un truc qui est très très amusant. C'est enfin amusant, je sais pas, mais c'est l'évolution de certains personnages. Par exemple, Philippe Val. Et est-ce qu'il n'y a pas aussi, alors mon camarade Jean-Loup,
vous l'aimez pas, vous,
non, non, mais il n'y a pas que Philippe Val, il y a aussi celui-ci. Alors j'ai perdu un bonhomme qui devient de plus en plus gros et frisé. Je me rappelle plus son nom.
Michel Field.
Voilà, Michel Field. Michel Field qu'on voit dans votre film en train de prôner pratiquement la lutte armée, si je dis pas de bêtises. Et qui, aujourd'hui, quand même, va manger au repas du centenaire.
Au dîner du siècle. Ouais,
du repas du siècle. Hein. Ah, moi, j'avais noté du centenaire.
Tout à fait,
du siècle.
Qui en fait partie. Bah oui, voilà, quand je disais, pour comprendre, il faut nommer. Donc, dans le film, effectivement, il y a ici et là quelques galeries de portraits, quelques biographies un peu synthétisées en quelques dates, d'évolution tout à fait caractéristique de ce que je parlais, c'est-à-dire de deux gens qui ont commencé leur carrière dans le service public sous la bannière de l'impertinence, de la contradiction, d'une forme d'opposition politique, et qui qu'on trouve aujourd'hui à la tête d'une émission sur Europe 1, le vaisseau amiral du groupe Lagardère, hein, pour les médias, et qui voilà, font des ménages pour Casino et animent des meetings UMP pour le oui au TCE en 2005. Voilà,
donc les ménages.
Effectivement, dans le film, comme ça, on a des portraits en raccourci de trajectoires très très symptomatiques d'une certaine évolution des médias et d'un certain usage surtout des médias de la contradiction. Hein, cette manière de toujours digérer la contradiction, hein, de la recycler pour en définitive totalement l'annuler.
Alors, vous parlez, il y a une expression qui est revenue 2-3 fois là tout à l'heure, que vous avez utilisé 2 ou 3 reprises, c'est qui est montré dans le film, c'est quand les journalistes font des ménages. Qu'est-ce que c'est faire un ménage pour un journaliste? Je m'appelle Christine Ocrène, par exemple. Non, on va pas dire Christine Ocrène, ça fait plus de ménage. Elle fait encore des ménages, elle?
Écoute, écoutez, je ne sais pas si elle en fait. Je pense qu'elle n'en fait plus parce que Christine O'Crane est certainement la personne qui a été le plus dénoncée pour cette pratique-là.
Alors les ménages, c'est quoi alors?
Bah, c'est Anne Sinclair, non?
C'est très simple pour un journaliste. Ça consiste à aller se vendre, hein, tout simplement, toucher un salaire, souvent conséquents, hein, sont des sommes très très importantes, évidemment, qui sont en rapport avec la notoriété du journaliste, pour une entreprise privée, une organisation, une association, un groupe politique, etc., en vue d'animer une conférence, de faire la promotion d'un produit, etc. Alors, ça s'appelle faire un ménage. Faire un ménage est parfaitement dénoncé dans la charte de déontologie du journaliste, parce que évidemment les conflits d'intérêts ensuite sont évidents. Hein. Comment vais-je pouvoir relayer une information éventuellement critique sur tel ou tel fabricant, par exemple, de voitures, hein, et puis dénoncer ou rendre compte d'un plan social ou quoi que ce soit, si la semaine précédente ou le mois précédent, j'ai été animé une convention pour des concessionnaires de cette marque-là. Voilà, bon, ça c'est un exemple tout bête, mais évidemment, les occurrences sont aussi nombreuses qu'il y a d'occurrences de faire un ménage. Donc voilà, c'est tout à fait réprouvé par contre de déontologie des journalistes, et ce qu'on montre dans le film, c'est que énormément de journalistes font des ménages, arrondissent leur salaire et leur fin de mois, beurrent leurs épinards, tout ce que vous voulez, en faisant des ménages, qu'il y a des agences spécialisées qui placent des journalistes, etc. Donc voilà, ça c'est aussi une réalité du journalisme d'aujourd'hui, et c'est l'un des aspects, voilà, c'est un petit chapitre dans le film, on traite de cette question-là. Je pense qu'on le fait de façon en plus relativement amusante, hein, puisqu'on on s'est fait passer pour une entreprise, on a contacté une agence qui nous a proposé des CV de journalistes, etc., etc., voilà, jusqu'à aboutir, et je dirais pas le nom, à une journaliste très très connue du service public, hein.
Vous n'aurez
donc,
pas dit.
Donc on a pris la main dans le sac, voilà.
Bah écoutez, on vous propose une petite pause musicale et on prend notre conversation. Et moi j'ai juste une petite réflexion un peu lourdingue personnelle. Si Anne Sinclair avait fait plus de ménage, DSK n'en serait pas là, peut-être. Le temps du dictionnaire de faire comprendre. C'est parti, à tout de suite.
Alex. excellent morceau de la programmation à Roger, les Jacuzzi Boys après les Dum Dum Girls. C'est vrai, c'est marrant.
Coïncidence. Vous passez vraiment du Coq à l'âne ou de TF1 à...
Non, ça n'a rien à voir. Deux excellents groupes. Je dirais un petit peu surf. Ça nous change du sautillant de certains. Bref, nous sommes toujours en compagnie de Gianni Perez et aussi de monsieur Yannick Carguat. Allô, allô.
Oui.
Ouais, ça marche toujours. Ouais. Vous savez, c'est toujours une surprise pour nous dans les studios de Canal B quand ça marche toujours en direct comme ça.
Oui, à distance.
Alors, par contre, c'est
j'ai, j'ai l'impression d'être un peu Alexandre Adler quand il faisait sa chronique le matin sur France Culture. Alors, ça me gêne un tout petit peu, quoi. Tu vois, c'est une référence.
C'est vrai.
Que j'aimerais pas avoir dans l'oreille.
Alors du coup, comment dirais-je, est-ce qu'on peut parler un petit peu de la mise en scène du film? Comment, il y a un truc qui est rigolo, c'est que il y a une évolution à partir d'un salon. Un salon d'appartement, et on voit la télé qui évolue, des poissons rouges qui grandissent, qui disparaissent, ploum ploum, et au fur et à mesure, et c'est un truc qui revient tout le temps comme ça pour parler de quand vous parlez de l'évolution de quelque chose, après vous revenez en arrière, vous reparlez d'un autre sujet, et à chaque fois on a cette petite animation. Il y a une autre animation, on voit un dessin animé avec Sarko en moto qui est assez assez rock'n'roll. Comment vous avez travaillé là-dessus? Comment vous avez fait les choix là-dessus?
Ouais, bah l'idée d'avoir des animations dans le film, ça nous est venu très très tôt. Hein. On pensait qu'il fallait varier les formes. On voulait faire un film qui soit un pamphlet et on voulait surtout faire ce qu'on fait déjà depuis longtemps dans des publications comme PLPL ou Plan B, c'est-à-dire faire quelque chose aussi de satirique. Hein. Nous, on aime bien rigoler, on peut le dire. On est très sérieux dans nos analyses, on est très convaincus sur notre sujet, on travaille beaucoup, mais on aime aussi les choses qui rigolent, les choses qui mordent un peu durement comme ça, et on aime la satire. Et donc on pensait que des petites animations comme ça, ça permettrait de faire passer des messages différents, des propos différents, etc. Et là, tout de suite, on a contacté une personne qui s'appelle Joris Cléré, qui est à la tête d'un studio d'animateurs, hein, d'animation, un tout petit studio très artisanal, qui s'appelle Donc Voilà, et qui s'est pris de passion pour le film, hein, et qui, à chaque fois qu'on lui a dit, tiens, voilà, on a tel problème, on voudrait dire tel truc, tiens, on voudrait faire la bio d'Alain Duhamel très rapidement, on lui écrivait un petit texte, on lui envoyait le machin, j'allais le voir, et puis, lui nous a amené ses idées, et il nous a amené Sarko en motard avec ses copains motards, les patrons des grands groupes de Pires. Il nous a amené donc la bio express d'Alain Duhamel sous forme de buste statufié, et l'idée de ce salon, nous on appelait ça le salon qui remonte le temps. Il fallait rendre compte des fois d'archives qui déroulaient sur une période assez longue. Hein, parce que dans le film, il y a pas mal d'archives, il y a beaucoup d'exemples, d'images de télévision, etc., qu'on va rechercher. Mmh. Et on voulait montrer que les processus qu'on dénonce dans le film, ils sont à l'œuvre déjà depuis une trentaine d'années. C'est pas quelque chose qui date d'avant-hier, quoi. Hein. C'est quelque chose qui est un long mouvement, hein, qui a lieu depuis nombreuses années, hein, une transformation néolibérale de l'information. Et donc, il fallait pouvoir rendre compte à travers des archives qui soient assez éloignées dans le temps. Et cette manière, de construire un salon, c'est-à-dire se mettre un peu dans la place d'un spectateur lambda, vous et moi,
on est en train de regarder
la télé chez nous, depuis des années on regarde la télé chez nous, mais ce chez nous il évolue au fur et à mesure du temps, la télé on en a racheté une nouvelle, etc., on est passé à l'écran plat, etc., bon voilà. Donc l'idée de ce salon qui se transforme à mesure que les archives soit remontent dans le temps, soit remontent avec chronologiquement.
Même les magazines télé évoluent.
C'est un petit dispositif qu'on va retrouver de temps en temps dans le film. On va le retrouver quand on fait le portrait d'un expert économique, Michel Godet. On va le retrouver aussi quand on va faire on va tailler un short à Alain Minc à la fin.
Alors, comment est-ce qu'on peut rebondir là-dessus sur les experts justement, parce que c'est un autre comment aspect du film que vous mettez en avant, c'est ces fameux experts qui arrivent maintenant sans pipe. Dans le temps, ils avaient une pipe au temps béni où on pouvait fumer un peu partout, mais eux, ils ne fument pas. Par contre, ils encaissent du pognon. Et c'est toujours les mêmes experts. Comment on va les interviewer sur tout et sur n'importe quoi, surtout sur des sujets économiques apparemment, et ils se font des couilles en or.
Oui, alors voilà, aujourd'hui ils ont tous la cravate, demain s'il faut ils feront tomber la cravate pour être dans l'air du temps, il n'y aura pas de souci. Ce qu'on démontre dans le film, c'est que ces experts qu'on voit à la télévision, mais qu'on entend à la radio, qui signent des tribunes dans les grands quotidiens, ils sont une poignée en définitive. Ils sont à peine une trentaine et ce sont toujours les mêmes qu'on voit en permanence et ce sont toujours les mêmes qu'on voit depuis des années. Et ces experts, c'est bizarre, et voilà, ils sont un peu tous du même bord économique. Hein. Et pourtant, quand on les présente, les journalistes les accueillent, dans les tribunes des journaux, ils sont nommés sous leur titre universitaire. Hein, un tel est voilà, chercheur au CNRS, un tel a une chaire dans telle université, etc. Et on ne les décrit jamais, mais on ne les présente jamais pour le rôle qu'ils jouent dans le système économique et qu'ils viennent défendre dans les tribunes, dans les caméras de télévision et les micros des radios. C'est-à-dire, on les décrit jamais pour leur fonction d'administrateur de grandes sociétés, d'administrateur de grandes banques ou de fonds spéculatifs, etc. Donc il y a un jeu de dupes, hein, ce jeu de dupes, il est surtout, il consiste surtout à duper le public, hein, puisque les journalistes eux-mêmes, les journalistes qui les invitent, hein, dans les talk-shows, dans les émissions, dans les tribunes des journaux, sont parfaitement au courant du rôle qu'ils jouent dans le système économique. Et pourtant, ce rôle n'est jamais mis en avant. Voilà, c'est l'un aussi des chapitres du film, c'est cette espèce d'imposture que le film dénonce.
Et les plantures à répétition d'Alain Minc, par exemple, qui nous dit, oui, le système mondial est capable d'absorber toutes les crises. Il nous dit ça alors que la tourmente a déjà
bien commencé. Voilà, alors on fait là ce travail que les journalistes à la télévision ne font jamais. On remonte des extraits. Alors, on n'a pas été chercher très très loin, hein, mais c'est très très symptomatique. Qu'est-ce qu'on a fait? Alain Minc animait une émission sur la chaîne Direct 8 de son ami Bolloré, ami de son ami Nicolas Sarkozy. Hein, deux mois, on a retrouvé des émissions qui se situaient juste avant la grande crise, le grand krach boursier de 2008, hein, la grande crise des subprimes, et on a retrouvé des émissions où quelques semaines avant le krach, hein, et le grand dérapage, Alain Minc invitait quelques-uns de ses fameux experts, hein, pour annoncer au public et dire au public que la crise n'aura pas lieu. Hein, tout simplement qu'effectivement l'économie mondiale est parfaitement bien gérée, c'est ces termes, hein, que le système est résilient, qu'il va se sortir de tout ça, etc., qu'il n'y aura pas de crise. Voilà. Et voilà, c'est comme le dit Frédéric Lordon dans le film, c'est la démonstration à grand spectacle, hein, de l'échec et de la responsabilité de ces experts et des journalistes qui les invitent systématiquement.
Ça me rappelle l'histoire du triple A. On disait, si on perd le triple A, ça craint. Et puis finalement, non, ça craint pas tant que ça.
Mais l'échéance gouvernementale, l'agenda, on va dire gouvernemental, à un moment donné, c'est de dire, imposons les réformes de rigueur nécessaires, etc., car sinon on va perdre le triple A.
Une fois qu'il
est écrit, il est acquis que le triple A va tomber, pour la bonne raison que ces réformes de rigueur, en plus, vont amplifier la crise, hein, c'est ce que tous les économistes un peu conséquents disent, tout d'un coup, le triple A, effectivement, c'est plus si important, et les journalistes vont relayer très facilement, sans se poser de questions, une autre version du discours gouvernemental.
Et sinon, est-ce que, je sais pas, voilà, tous ces médias, toutes ces chaînes de télé, c'est tous pourris, ou est-ce qu'il y en a qui sont plus indépendantes que d'autres, ou finalement tout le monde fonctionne dans le même système?
Non, je crois que le film se garde de ce genre de raccourci un peu populiste qui sent un peu le marron qui pue, comme tous pourris. Non, pas tous pourris. Je pense que dans les rédactions, dans beaucoup de journaux, à la télévision, il y a des journalistes qui pensent différemment, qui se battent à l'intérieur de leur rédaction pour que produire une information différente. Les circonstances font qu'il y a des directeurs de rédaction, qu'il y a des propriétaires de journaux, etc., qui impose une ligne éditoriale. Mais non, tous les journalistes ne sont pas pourris, loin de là. Et puis, effectivement, il existe encore, ici ou là, des médias, on va dire, alternatifs, hein, un tiers secteur de l'audiovisuel, des gens réellement indépendants et qui font un travail de journaliste réellement indépendant. Indépendant des marchés, indépendants qui font de l'information autre chose qu'une marchandise comme les autres, quoi.
Et la télévision par Internet, est-ce que c'est pas ça l'avenir d'une certaine indépendance de l'information ? Parce qu'on en parle beaucoup, en fait.
Oui, c'est vrai qu'on parle beaucoup d'Internet, et c'est vrai que ça a une importance très importante aujourd'hui. Alors, moi, par exemple, je coanime une association qui a un site Internet qui publie 3 articles par semaine sur la question des médias, hein, qui s'appelle Acrimed, qui a son site, je fais la pub, hein, www.acrimed.org. Donc, je vais pas dire, Acrimed, Internet, c'est pas important. Oui, c'est une grande fenêtre, une grande opportunité.
Je parle de la télévision, en fait, pas Internet.
Toutes les formes, enfin on va dire, d'informations alternatives sur Internet sont bonnes à prendre et sont des espaces de liberté, que ce soit de la télévision sur Internet, que ce soit les blogs, que ce soit ce qu'on appelle les pure players, c'est-à-dire ces journaux généralistes d'informations qui n'existent aujourd'hui que sur Internet. Mais il faut aussi avoir en tête que encore aujourd'hui sur Internet, l'information sur Internet reproduit tout à fait la hiérarchie des médias dominants. C'est-à-dire, quel est le site d'information le plus consulté sur Internet ? Eh bien, c'est le site de TF1. Et le site de Mediapart arrive en 25e ou 27e position. Hein.
Alors, c'était bien la peine de dire plein de mal sur la Bettencourt.
Voilà. Alors, sûrement, le site de Mediapart a plus d'influence qu'il n'a d'audience. Et tant mieux. Hein. Mais on est encore loin d'avoir des médias sur Internet qui soient des vraies alternatives aux médias dominants. Les Français, encore aujourd'hui, s'informent très, très majoritairement par
les journaux de 20 heures,
sur les grands médias, etc. Ouais. Donc, il faut continuer la lutte, sur ces médias. Il faut pas baisser les bras sur ces médias-là en se disant, on laisse tomber tout ça.
D'autant
qu'on on peut pas le sauver, replions-nous sur Internet. Moi, je pense que c'est pas encore ce qu'il faut faire, ça certainement pas.
D'autant qu'en plus, ça va de pair, cette prise en main là, des grandes chaînes de télé, va de pair avec une perte de vitesse de la presse. Et maintenant, on n'a plus que ces maudits journaux gratuits qui appartiennent de nouveau à Bolloré,
Oui, à des grands groupes financiarisés, absolument, oui. Et c'est très problématique. Et c'est vrai que la presse en France, et au-delà de la France, hein, bien largement, traverse une crise très, très, très profonde, moi, je dirais une crise de son électorat, une crise de confiance aussi de son électorat, et une crise de son modèle économique, à la fois sous, effectivement, le coup de boutoir d'Internet, de ce qu'a été Internet, et le coup de boutoir des gratuits, de ce qu'on appelle les gratuits. Parce qu'évidemment, la presse gratuite, entre guillemets, ne l'est pas.
Bien sûr.
Elle est payée par le consommateur via la part qui est consacrée à la publicité dans les produits qu'ils achètent. Donc, c'est une presse faussement gratuite. Et c'est une presse qui a... déstabiliser le modèle économique de la presse traditionnelle qui a bien bien du mal à s'en relever et à trouver des alternatives.
Et du coup, j'étais en train de vous écouter, mais du coup, quel avenir, parce que là, on va malheureusement devoir se quitter, parce que, l'heure tourne, comme dirait Jean-Loup. Mais par contre, au-delà du constat, effectivement, qu'on est pas mal dans la panade, est-ce que vous voyez quelques lueurs,
d'espoir,
quelques raisons d'espérer, en tout cas?
Nous, quand on fait ce film, évidemment, on fait un pamphlet, on fait un film satirique, on essaie de faire un film qui soit drôle, parce qu'on veut pas que les gens non plus sortent du film en se disant « Mon Dieu, c'est horrible, il n'y a plus rien à faire, tout va mal, etc. » Non, je pense qu'on veut aussi donner de l'énergie et que aussi en
rigolant, c'est marrant,
on sort aussi avec l'envie de se battre, quoi. Voilà. Nous, pour nous, la question et l'enjeu aujourd'hui de ces questions-là, c'est que les forces politiques, c'est-à-dire ceux qui sont censés légiférer, transformer la société, faire que ça aille mieux d'une certaine manière, se saisissent de la question des médias. Hein, ce qui n'est plus le cas depuis des années. Le PS a un programme média souvent plutôt conséquent, un peu on peut en dire beaucoup de choses, mais il existe ce programme-là. Le problème, c'est qu'il n'est jamais appliqué. Jamais, quand ils reviennent aux affaires, ils n'appliquent jamais leur programme média. Donc on veut aussi que les forces politiques se saisissent de la question des médias, et nous, notre objectif, c'est de faire ça, de la question des médias, une question politique, ce qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être.
Oui, alors justement, il y a un long moment où François Bayrou parle, justement, il est remonté ensuite. Est-ce que c'est aussi... un exemple à suivre, ou bien
On verra si François Bayrou va renouveler son petit coup de théâtre. On l'a montré dans le film parce que c'était relativement amusant. C'était la première fois qu'un homme politique avec un destin un peu national, s'attaquer en direct à l'indépendance de TF1. Voilà. Hein, une chaîne dont son groupe politique que son groupe politique avait privatisé. Hein, on n'est pas naïf du tout sur les espoirs François Bayrou à ce moment-là. Mais simplement, on va voir. Est-ce qu'il va renouveler ça? Est-ce qu'il va avoir un programme sur les médias conséquent? Est-ce qu'il va le défendre? Est-ce qu'il va en parler? Hein, par exemple, on a beaucoup parlé au moment de l'accord entre les Verts et le PS, on a parlé du nucléaire, on a parlé des questions qui fâchent, etc. Pourquoi les médias n'ont jamais rendu compte que dans cet accord, il y avait des accords sur la question des médias, hein, et qu'il y avait un programme commun, hein, ils se sont mis aussi d'accord sur la question de la transformation des médias. Mais là, les médias n'en ont absolument jamais parlé, vous n'en avez pas entendu parler. Hein. Voilà. Donc maintenant, on aimerait que cette question, elle revienne un peu au premier plan. On est bien conscient, on n'est pas des monomaniaques, on est bien conscient qu'il y a une urgence sociale très forte aujourd'hui, que la question de la précarité, que la question du chômage, que la question... Il y a tout un tas de questions sociales qui sont d'une urgence bien plus importante que la question des médias, qui apparaissent bien plus importantes. C'est clair. Mais on pense que la question des médias, elle est au cœur de toutes les composantes du mouvement social. Et qu'il faut qu'elle remonte dans les agendas politiques.
Bah écoutez, on vous remercie d'être intervenu aussi longuement. On peut en retrouver de toute façon tous les contacts que vous avez donnés, hein, les petits, vous avez tout noté sur le blog.
Voilà, je crois que Gianni voulait intervenir aussi par rapport à la sortie du film.
Alors donc le 11 officiellement, janvier.
Alors ça c'est la sortie effectivement nationale. Et donc dans le cadre des projections qui vont avoir lieu à Rennes au Ciné TNB, en fait le 15 janvier, il est donc possible de faire la connaissance et de débattre avec Gilles Balbastre, justement le co-réalisateur avec Yannick qui nous parlait ce soir, et qui sera à Rennes donc le 15 janvier à 15h30. Et puis donc voilà. Il pourra rester une bonne heure ensuite après pour débattre avec le public.
Très bien, bon, c'est noté.
C'est super. Eh ben écoutez, je sais pas quel accueil vous aurez auprès de ces certains journalistes. Je sais pas si tout le monde va être ravi de savoir que maintenant tout le monde sait qu'ils vont manger une fois par mois au repas, au fameux repas du siècle.
Ouais, voilà. Tous. Non, on imagine bien qu'on va pas se faire que des amis, mais on va se faire aussi des amis. Ça c'est sûr. Et même s'ils seront pas forcément du Beau-Comté du Manche. Voilà. Et merci à vous d'avoir consacré du temps au nouveau chien de garde.
C'est nous, à bientôt.
Bonsoir.
Au revoir. À bientôt. Merci.
Au revoir. Au revoir.
C'est... This... shit. Hello.
Hello.
Feeling better?
What do you think?
Look, don't be calling me to start some shit. If you want to talk,
yeah, whatever. You were trying to get away from the point. You ain't shit. You're never gonna be
you.
Shit.
I'm doing my shit, I'm going to work, I'm going to school, I'm trying to get by.
Yeah, but that ain't shit. So all you can do is you just like a bitch.
I guess I learned from the master. It's up with you always knowing which buttons to push on.
Yo, yo, you made me sick with all that bullshit you flip. I still don't understand how I could stick with
you.
I look back at the days, stacked with the ways, still always had your back for fact, but
you
always had to up the sounds, back my frowns, empty nouns, pound for pound. You always found that
you
had the upper hand, but this man can't understand your plan. That's why I ran away from
you.
I rewind the times and then find wasn't just out of line. I decline, cause I'm not
you,
and you're not me. That's why you had to end. Plus, I'm here with the pen, describing again about me and
you.
Me and you, seeing through what you couldn't be true. I love you, you love me, but it seems.
You.
Love my company, my flows. You couldn't run with me with those attitudes. Plus, I felt like smacking
you.
But it's wrong. You could go and ask my mom's if she put up with it long. It's the same song for
you.
And it's the same song I sing. Talking about the eye stain. I'll try and the lying to
you.
And the list goes on, goes on, goes on, goes on. Strong and true. Hey, yo. And the list goes on, goes on, goes on. About me, eh?
You.
À partir de dorénavant, toutes les connaissances disponibles sont à votre disposition. En effet, les Grignoux sont spécialistes de tout. Diplômé des arts et des lettres, docteur en sciences particulières et générales, prix Nobel 90 de mathématiques, maître en histoire géo, spécialiste de l'univers, licencié S paranormal, voici les Grignoux dans Éduquons.
C'est de votre faute aussi, oui, oui, si vous Tom dites des bizarre. Bêtises en antenne, Tom du coup, bizarre, bah voilà. Bref, la seconde facette, comment, avec où
votre double casquette.
Votre deuxième casquette, pour, oui. Dont on peut parler également ce soir, Gianni, c'est également votre activité au sein du réseau d'éducation sans frontières.
Éducation sans frontières, ouais, c'est ça. Donc, oui, c'est donc un réseau que Rennes connaît plus ou moins parce qu'il y a eu dans l'actualité, mais un peu éloigné maintenant, des cas qui étaient très très frappants dans les écoles de Rennes.
On a eu à l'antenne une fois avec Jean-Loup, c'était avec une petite qui s'appelait...
C'est pas de Lamia.
Ça vous dit rien.
Oui, c'est aussi vieux, ça remonte à quelques années, ouais.
Et donc voilà, il y a eu des moments forts comme ça dans différents quartiers de Rennes, et puis bon, sur de Rennes Métropole. Mais donc le travail du réseau, il s'est étoffé sur la base justement de relations qui ont été nouées entre les personnes qui se sont mobilisées pour des cas comme ça individuels. Et donc c'est aussi une évolution du problème qui est posée par justement ces migrants qui ont des enfants ou des migrants isolés et mineurs qui viennent sur le territoire français, qui constituent aussi donc des nouvelles préoccupations qui sont particulièrement nombreuses à Rennes, parce que justement la localisation à Saint-Jacques-de-la-Lande du centre de rétention administratif de la région Ouest fait que justement les cas sont fréquents, mais ils sont dans l'actualité en tout cas récente assez peu portés par des cas pratiques dans les écoles, disons, pour l'instant. Et donc le travail de réseau éducation sans frontières, c'est d'essayer d'apporter un soutien justement à différents niveaux, hein. Ça va être pour monter les dossiers, mais aussi dans le feu de l'action, moi, pour essayer de trouver justement des relais pour au niveau politique, au niveau médiatique, comme on en parlait, aussi de pouvoir attirer l'attention de l'opinion et puis générer des mouvements de solidarité. Donc c'est un travail qui est partagé par plusieurs organisations, celle à laquelle j'appartiens, donc le SNES-FSU, mais aussi donc le MRAP, le collectif Sans Papier, puis le DAL qui a joué un grand rôle dans des affaires assez récentes. On se retrouve de manière justement bien sûr opérationnelle quand il y a des cas pratiques, mais il y a aussi une volonté de disons tenir des occasions d'échanger. Et donc c'est une fois par mois en fait que le collectif Rennes se réunit. Et puis par ailleurs, il y a aussi les amis de RESF qui, à titre individuel cette fois-ci, soutiennent donc par leur cotisation et aussi leur intérêt porté à ce qui se passe, le réseau en fait sur Rennes.
Voilà. On avait parlé un peu en préparant l'émission aussi également il y a un nouveau centre de rétention sur Rennes.
Il est assez récent, oui, il remonte
Saint-Jacques. Saint-Jacques. Alors est-ce qu'il y a des échos? Est-ce que je sais pas comment ça se passe? Alors,
j'avais envie, je vais peut-être l'oublier, donc de faire un rappel de ce qu'on disait au début, enfin que vous aviez dit vous sur les industriels forains, parce qu'il faudra plus justement que
vous n'allez pas remettre ça.
Non, on leur prend pas loin.
Avec un peu de chance, ils avaient presque oublié.
Géographiquement.
Bon, tant pis pour votre bagnole.
C'est à faible portée de Grenade-Lacquibrugène, donc, et parce que le CRA est donc défendu ou en tout cas surveillé par des différents fonctionnaires, et notamment donc sont prépositionnés en permanence justement je ne sais plus si ce sont des CRS ou des gendarmes mobiles, mais enfin voilà, il y a du monde, quoi. Et donc voilà, c'est en fait à quelques dizaines de minutes à pied du parc des expositions, donc c'était quand même voilà à souligner. Donc c'est un lieu très très singulier, hein. C'est un lieu qui a été rendu possible par les durcissements des lois concernant l'immigration, puisque il s'agit pas d'une détention. Il s'agit donc d'une rétention. Hein, la rétention, une lettre change et ça signifie concrètement.
On part que les gens.
Ça change aussi que c'est pas le même ministère. C'est pas le même ministère qui est compétent.
Ça change d'être en rétention plutôt qu'en détention.
Ben c'est intéressant parce que justement là aussi on peut jouer sur les lettres. C'est plus le ministère de l'I, de la J qui donc bien sûr se préoccupe de la détention. C'est une décision judiciaire le plus souvent. Et Et donc, l'autre ministère, cette fois-ci pour les centres de rétention administrative, c'est le ministère de l'intérieur. De l'intérieur, et donc, il s'agit plus du tout des mêmes dispositifs. Il y a quand même un encadrement qui peut intervenir, mais ce sont des lieux donc où la privation de liberté se réduit, je mets des guillemets, au fait de ne pas pouvoir sortir d'une enceinte.
Alors, les gens sont pas encore dans des cellules, pas encore.
Exactement, ils sont tenus bien sûr de respecter un règlement assez sévère sur le plan des justement des moments lever, coucher, et puis les repas, etc. Ils ont la possibilité d'avoir un téléphone, ce qui normalement est impossible en détention, même si parfois les téléphones sont montés en pièces détachées et puis fonctionnent quand même à l'intérieur des enceintes pénitentiaires. Et donc ils ont la possibilité de communiquer avec des personnes extérieures, mais pas pour autant des personnes de leur choix. Hein, donc il y a quand même des moments qui sont envisagés pour que des proches ou des membres de la famille puissent voir la personne qui est retenue, mais il n'y a pas de possibilité de faire dans la journée entrer des personnes, et puis voilà. Donc c'est quand même une situation extrêmement préoccupante, d'autant que plusieurs cas se sont donc réalisés de personnes qui étaient justement retenues avec des enfants et même avec des nouveau-nés. C'est intervenu donc dans le courant de l'été, me semble-t-il, et donc c'est vraiment des choses là aussi qui sont à mesurer avec ce qui se passe en prison. On n'envisage pas de détenir en temps de paix dans le contexte démocratique une famille entière en prison. On garde à vue, c'est individuel. Quoi. Et voilà. Mais donc
c'est un délit qu'ils ont commis. Que dit la loi en fait? Le fait d'être sur le territoire français sans autorisation, sans papier, en fait, c'est considéré comme un délit.
Tout à fait, oui, c'est un délit, effectivement.
Je fais un peu l'avocat du diable.
Oui, non, c'est une infraction à la réglementation, à la législation sur le séjour. Et donc, on peut être dans cette situation de différentes manières. On peut entrer sur le territoire français sans papier, effectivement, sans autorisation d'y entrer, etc. On peut le devenir, c'est-à-dire qu'à différents moments, où le titre de séjour valable ne l'est plus, où il a été perdu, où il y a une possibilité, variée comme ça de situations qui vont passer de la légalité à l'illégalité.
Et tous les gens qui doivent essayer de prouver, par exemple, qu'ils sont en situation de risque dans leur pays d'origine et que c'est pour ça qu'ils...
Alors voilà, après, il y a effectivement le cas plus singulier des demandeurs d'asile qui sont donc sur le territoire français. Ici, ils se font connaître des services compétents. Ils vont recevoir un titre, un récépissé provisoire donc qui les autorise à séjourner le temps que leur dossier soit justement étudié. Et c'est donc une procédure qui est très complexe, effectivement, et qui évolue au gré de l'évolution de la situation internationale, parce que justement on peut changer de catégorie à l'intérieur d'un pays qui est en paix, il peut néanmoins y avoir des minorités qui sont encore persécutées, et ça crée des situations qui parfois dans le temps de l'instruction, justement, même s'il a été raccourci, voilà, là on a pu dégager de la productivité, on a motivé les agents, que sais-je, en tout cas effectivement dans ce délai qui peut parfois être relativement bref, de l'ordre d'un mois, ben la situation diplomatique en fait du pays de départ avec la France peut avoir changé, et à ce moment-là, les accords qui ont été signés font qu'on ne peut plus reconnaître à ces personnes la qualité qu'ils auraient eu quelque temps avant. Quoi.
Et j'aurais une dernière question à vous poser, mais malheureusement, nous n'avons plus le temps.
Mais comment, dans le centre de rétention, il y a combien de personnes? C'est quoi la population?
Non, mais dans ce cas, je pose ma question, si on a le temps.
Ça fluctue.
Non, mais j'ai une question qui est tellement vaste et globale.
Non, je ne veux pas dire des bêtises sur la situation actuelle, mais ça peut varier
dans la télévision, quand même.
De quelques... pas forcément dans leur chambre, mais
ça représente combien,
c'est fluctuant, il y a des rythmes dans l'année aussi, mais c'est en tout cas en moyenne un peu moins de 100 personnes, je pense. Oui, tout à fait, mais justement c'est le troisième en France du point de vue justement des flux qu'il reçoit. Ça peut paraître paradoxal parce que les deux autres sont en région parisienne, et pas dans le sud ou le sud-est de la France, hein. C'est Rennes qui va en fait recevoir le plus de personnes dans cette situation. Ouais.
Bon, moi, je ne poserai pas ma question. De toute façon, elle était tellement vaste que, de toute manière,
est-ce qu'elle était vraiment, vraiment intéressante?
Elle pouvait être intéressante. Je voulais mettre un peu dans les pieds dans le plat. La question que je voulais poser, je vais la poser puisqu'il reste une minute.
Non, il reste pas.
Y a-t-il pas des contradictions, justement, en favorisant l'accueil de personnes qui viennent sûrement de conditions abominables, etc., de créer des réseaux, de créer des trafics? Et tout ça, en fait, c'est du trafic d'êtres humains. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction, en fait, entre les deux? C'est-à-dire d'encourager, en une minute, ça va être juste. Hein.
C'est
répondre à
une question entre quoi et quoi?
Bah, le fait justement d'accueillir ou de favoriser l'accueil dans les...
Mais qui accueille et qui favorise?
Bah, justement les différentes associations,
ouais, les conditions de,
dans
de,
des conditions de dignité humaine, dignes de la République, n'encourage-t-elle pas en fait de certains réseaux et un certain trafic d'êtres humains?
C'est une éventualité. Alors,
parce que ces gens-là, ils payent.
Ça fait 30 secondes.
C'est, oui, c'est mais il n'y a pas le temps, je sais bien, mais ces gens-là, ils payent pour venir. C'est
oui,
pas
oui,
gratuit.
Ça peut arriver. Donc,
les familles sans dettes.
C'est vrai que ça peut poser des problèmes à certains. Disons que là, le positionnement d'une structure comme le Réseau d'éducation sans frontières ou d'autres associations qui travaillent dans ce cadre-là, c'est de dire qu'on les prend en charge parce qu'ils sont là et que qu'ils soient là justement pour différentes raisons. C'est un état de fait, ils sont là et donc à ce titre-là, on défend leurs droits, des droits fondamentaux en fait.
Et on s'en occupe.
Et notamment le droit à l'éducation pour leurs enfants.
Leur voilà, une question aussi compliquée, vous avez répondu en 30 secondes. Et j'ai ma réponse et je suis content. Voilà.
Si vous êtes content,
allez,
c'est très bien.
Il faut qu'on se quitte, on vous dit salut, il
on
est 10h.
On n'aura pas
heures.
Le temps d'écouter au moins un excellent disque de la programmation à Roger. Ah si, alors, Julien me dernier... que oui. Ah, le disque... C'est à lui,
ouais, et on attend nos amis de Dub Revolution. Je sais pas, ils sont pas là. Ils ont dû se faire arrêter par la police.
Il fait enfin et son travail et il était temps.
Bah, je serai policier. Moi, je les vois, je les arrête d'emblée, tout de suite.
D'ailleurs, je les arrête même avant qu'ils montent de leur voiture.
Voilà. Salut, à la semaine prochaine.